Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 67e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Adrien Arnoux, très talentueux, très drôle. Ne le manquez pas au point virgule tous les dimanches à 17h. De mon côté, je continue les vendredis et samedis à 21h à la Nouvelle Scène, c'est un bonheur. Je filme les interactions avec les spectateurs, j'espère que ça vous plaît. J'en ai mise sur Insta vendredi dernier et j'ai pas eu le temps également de partager sur YouTube. En fait, mon but, ce serait de créer un format en deux parties, extrait de l'interaction courte, max une minute sur Insta en reel et version longue à retrouver en entier sur YouTube. Mais le temps file, voilà. Merci à vous d'être là. Les auditeurs et auditrices qui connaissent le podcast depuis longtemps le savent, mais pour ceux qui me découvrent, je préfère vous prévenir, j'ai un côté caméléon. Je me mêle à la pensée de mon invité pour savoir jusqu'où elle ira. Dans cet épisode, j'ai beaucoup suivi Adrien dans son idéologie anti-système, anti-industrie de l'humour, mais je tiens à rappeler que je suis très contente d'être accompagnée, produite, mise en scène et sponsorisée, encore une fois par la marque française Nidée.co. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de leur fabuleux soin bonne mine et aujourd'hui, je vais vous décrire leur géniale crème pour les seins, Tits Party. C'est une crème rose qui sent bon, qui est toute fraîche, très 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 agréable à appliquer. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une crème lambda hydratante ? Eh ben, elle n'est pas grasse du tout. En fait, c'est un peu comme un lubrifiant, mais qui ne colle pas. En fait, c'est agréable de se masser les seins avec. Vous pouvez l'acheter pour vous. Ou, si vous êtes en couple, pour que votre partenaire vous masse les seins avec. Moi, perso, j'adore qu'on me touche les seins. Je suis complexée un peu par mes seins. J'en parle dans mon spectacle. Je suis un peu complexée par la taille de mes tétons. Les aréoles, vous savez, autour du tatouage, je les trouve un peu trop... Voilà, j'aimerais que, comme dans le porno, ce soit tout petit. Que ce soit toujours comme quand j'ai froid. Vous savez, quand les tétons sont tout petits. Mais ils ont une taille normale de tous les seins. Et le fait est quand même que c'est hyper érogène. Et que si le mec me prend les seins quand on fait l'amour, et ben c'est un énorme plus, c'est très excitant. Parfois, s'il le fait pas, je lui demande, je lui dis mais prends-moi les seins. Et si vous faites des caresses du sexe en pénétration, c'est très agréable de toucher les seins aussi à ce moment-là. Par exemple, si vous vous masturbez et que votre partenaire est à côté et ben qu'il veut se rendre utile, il peut vous masser les seins avec la crème Tits Party. Plus une crème hydratante, c'est une crème tonifiante, agréable, qui sent bon, avec 99% d'ingrédients naturels, dont de l'argan et de la camarine noire. Miam, foncez, vous avez 10% de réduction avec mon code promo ROSA10, lien dans la description. Par ailleurs, je tiens à refaire des petites recos non sponsorisées. J'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller au ciné depuis un mois, mais bref. Quand je rentre tard, j'aime quand même regarder un film ou une série et je me régale sur OCS avec la nouvelle saison de Curb Your Enthusiasm de Larry David, ainsi que la nouvelle saison de Succession. Et j'ai vu un film français génial, Les Éblouis de Sarah Souko. Voilà, c'est très fort, très émouvant, je vous recommande. Peut-être que vous remarquerez ma fatigue, à un moment je dis à Adrien que je vais lui lire son petit podcast, il s'agit évidemment de son petit poème. L'épisode commence par une discussion sur le podcast. Doit-il être filmé ou l'audio suffit-il ? Mais je vous en dis pas plus, bonne écoute.
Le patriarcat gagne.
Ouais, mais au contraire, moi j'ai envie de me dire, si jamais je le faisais filmer, faut le faire avec des bons moyens où tu peux dire à la personne, bah si tu veux y être maquilleuse ou mettre une lumière flatteuse, ouais. Rendre vraiment les gens beaux, tout ça. Et en vrai, c'est du temps quoi.
Je veux les inviter dans mon monde où ces choses-là sont pas importantes.
Ouais. Ouais, mais aussi le truc c'est que.
Je le trouve assez affreux dans mon podcast aussi.
Non, mais c'est bien d'être dans le côté puriste du son. Après, c'est sûr que ça fait moins de... Ça a moins de... Tu vois, genre, c'est pas aussi le truc de Seb Méliès, c'est un truc de malade. T'as vu le nombre de gens...
Ah, en public, qui... ouais. Non, ça, ouais. C'est un gros truc.
C'est énorme. Là, sa dernière vidéo de 4 comiques, il est déjà à plus de pratiquement 400 000 vues.
Ouais, félicitations.
Merci. Non, c'est clair, c'est énorme. Moi aussi, ça m'a apporté un paquet de followers sur Insta, quoi. J'en ai pris 2000 à peu près.
Ouais, moi si je fais un passage télé, j'en prends 30 à peu près.
Non.
Ah, c'est très léger. Hein.
Ouais. Attends, la dernière fois, t'étais reconnu qu'on a joué au Barbès.
Ah non, mais on me reconnaît dans la rue, mais on ne me suit pas sur Internet.
Ah
c'est
ouais
ça, bon. Faut que j'arrive à colmater les deux, tu vois.
Grave.
Mais non, y a, je pense qu'on me reconnaît pas mal dans la rue. Mais,
ouais, ah ouais, c'est vrai.
Personne. Enfin, je pense pas que ces gens-là sachent mon nom, tu vois. C'est genre, j'ai déjà vu quelque part ce mec-là. Tu sais, il regarde Montreux. En...
Ouais, c'est le Montreux, la vidéo du Montreux et 4 comiques aussi, non ?
Il y a ça aussi, ouais. Ouais, ouais. Et. Tu vois, regarde Montreux en shuffle, donc au bout d'un moment, il tombe sur moi juste...
Bah oui, c'est sûr. C'est ouf, la force de frappe de Montreux.
Ouais.
Alors, je te lis ton petit podcast, comme ça, si tu veux, pendant ce temps, tu peux boire ton café tranquille. Ou a... Enfin, quoi qu'il est encore peut-être un peu chaud.
Non, c'est parfait.
Et tu le trouves pas trop dégueulasse ?
Comme je te dis, je bois pas ça pour le goût.
Comme... Ok. Adrien Arnoux. Adrien Arnoux est a priori l'extrême inverse des mecs que je ken de la saison 1. Souvent alpha, dominant, ambitieux, avec une espèce de croyance folle, naïve en eux-mêmes et en la vie. Adrien est très cynique. Jusqu'à récemment, il refusait de mélanger l'idée de se vendre à celle de faire du stand-up. Le stand-up devait être pur, en comédie club, pas dans un théâtre. Objectif qu'il est, sans avoir à vendre des tickets. Mais aujourd'hui, tout cela change. Adrien va jouer son heure au point virgule et il ne renie plus les followers. Il envisage enfin la problématique de remplir sa salle sans que cela soit en contradiction avec le fait d'être bon. Les deux seraient-ils même liés ? Adrien est le premier humoriste à m'avoir donné des conseils. On s'était croisés fin 2017, début 2018 à des castings de pub. Puis je l'avais vu, je crois, au Sceaux Gymnase et on avait pris un café au Starbucks Opéra. Je me souviens que tu m'avais dit de méfier des conseils de quiconque ne serait pas humoriste. Tu m'avais dit de n'écouter que ceux qui prennent ce risque immense de monter sur scène et pas les autres. Metteurs en scène, producteurs, attachés de presse, programmateurs, directeurs de théâtre, etc., etc. Tous les autres, tu m'avais dit, plus ou moins, ils savent rien. Et même, ils te diront que des conneries. Fie-toi uniquement à ton ressenti et au public. C'est tout simple, ou ça rit pas, voilà. Le reste, c'est du bullshit. Est-ce que tu penses toujours cela ? Et en tout cas, merci Adrien de venir dans mon podcast.
Non, bah disons que c'est des perceptions extérieures qui sont un peu romancées, si tu veux. Il n'y a rien de tout ça qui est 100% vrai, hein, dans ce que tu as dit. Et j'ai jamais refusé quoi que ce soit. C'est aussi plus... En fait, les gens ont la mauvaise histoire, quoi, tu vois. Enfin, la plupart des gens me découvrent en écoutant ce podcast. Mais non, j'ai jamais rien refusé. J'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché. Et plutôt que de forcer, je me suis dit, on va prendre son temps, quoi, tu vois.
Ouais.
J'ai quand même fait genre 3 Montreux, un Jamel, j'avais fait une tournée. Et où, à la fin de tout ça, je me suis rendu compte que bah, finalement, on s'en bat encore un peu les couilles de moi. Donc, je vais peut-être prendre la thune et voyager un petit peu, tu vois. Faire des plateaux, développer une vraie heure. Parce que là, j'avais surtout une demi-heure que j'aurais pu étirer. Mais ça a jamais été vraiment un refus de... C'est marrant parce que mes parents ils pensent ça aussi, que genre il y a Spielberg qui m'appelle et je suis comme t'es enculé. J'ai plus ou moins dit oui à tout ce qu'on m'a proposé en fait, hein, quand tu regardes bien. Les trucs auxquels j'ai dit non, c'est parce que c'était des mauvais deals ou c'était un. Comment c'était une. Enfin, comment. Enfin, c'était un mauvais, ouais.
Un mauvais plan. Moi, je me souviens que tu. Quand on avait discuté, je t'avais dit écoute, je commence à travailler avec une nana et ça va être ma metteur en scène et elle va me regarder. Et t'avais été super encourageant et tout, mais tu m'avais dit que tu n'y croyais pas. Que tu ne croyais pas à la mise en scène de stand-up.
Le truc, c'est que moi, je dis toujours aux gens faites ce que vous voulez,
oui,
tu vois. J'ai jamais rien imposé. Moi, c'est des trucs que j'aime imposer à moi parce que c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois.
Mm-hmm.
Mais metteur en scène, j'ai l'impression que avoir une metteuse en scène pour le stand-up, ça peut cimenter un peu ton matériel dans quelque chose d'un peu statique, du coup. Ta metteur en scène t'a dit de le faire comme ça, donc tu vas le faire comme ça tout le temps,
ouais,
tu vois. Et pour moi, c'est un peu l'antithèse de.
Bah, c'est pas du tout. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai trouvé. En fait, avec Adrienne, on applique les mêmes choses que les conseils que toi, tu m'avais donnés. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait est fluide et on le remet toujours en question en fonction de le public.
Ouais.
C'est-à-dire, et Adrienne, c'est l'anti-bullshit. C'est-à-dire que si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Ce qui est peut-être, je vois ce que tu veux dire dans ta logique, c'est que parfois, au détour de nos vies, on rencontre des gens qui dirigent des festivals ou de je ne sais pas quoi, qui ont l'impression d'avoir la clé de l'humour et qui ne sont en effet jamais montés sur scène. Et parfois, tu as l'impression que même les retours qu'ils te donnent sont juste pour eux se congratuler de leur posture.
Surtout
de
les meufs. les retours qu'on donne aux meufs, c'est toujours par le pas de ta chatte, de toute façon. Donc,
oui,
pourquoi tu veux écouter ces gens-là, quoi.
Ouais, c'est clair.
Parle de ta chatte.
Toi, ça fait combien de temps là maintenant que t'as commencé le stand-up ?
Ah, beaucoup trop longtemps. 2012. Avril 2012, c'était mon premier passage, 2 avril.
Ok, c'était où ton premier passage?
C'était au Café de Paris.
Ouais.
C'est un truc, je ne sais pas si tu connais, enfin, je sais pas si t'as connu ça, mais ça s'appelait le Changeman.
J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, c'était fini quand moi j'ai commencé. Ouais.
C'était folklore.
Ah ouais?
Déjà, ça durait 3 heures. Et, ouais. C'est n'importe qui pouvait envoyer un mail et booker un spot. Quoi.
Ouais.
Et franchement, ça passait de. T'avais des gens qui venaient tester des blagues pour la télé, mm-hmm. et après, t'avais un gars qui faisait ça pour la première fois, et il y avait 20 humoristes, tu vois.
Wow.
Et c'était 5 minutes, et t'avais une dame qui s'appelle Françoise Deldy qui était au fond de la salle, comme ça, et qu'au bout de 5 minutes, elle faisait une petite cloche comme ça, genre. Et si tu partais pas, ils éteignaient tout.
Ah ouais, c'est drôle.
Ce qui était incroyable, c'est que c'était. Bon, bah, du coup, il y avait un public qui était vraiment là et enthousiaste, ouais. Tu vois.
Mais c'est pas mal, parfois, il faut attends, la dernière fois, j'étais invitée à un plateau, un petit plateau comme ça, c'était très sympa, mais, ouais. mais les humoristes ont tous fait 20 minutes, enfin, surtout ceux qui géraient le plateau, parce que ceux qui étaient invités, nous, on est tellement habitués au fait d'être flashés. Que tu sais quand c'est 7, 8, 10, 12, ou parce que justement maintenant il y a pas mal de trucs un peu captés, etc. Donc ouais. Tu sais que. Mais ceux qui organisaient, très gentils, hein, mais ils restaient sur scène 20 minutes et c'était long. Et je trouve que c'est encore plus long quand c'est la personne qui organise le plateau. Parce que tu as envie d'avoir une espèce de grâce, de pudeur par rapport à tes invités, de dire voilà, moi je suis là pour présenter, tester 2-3 blagues, mais mettre tes invités en avant. Et surtout, on a commencé. Le rendez-vous était à 19h30. Et donc moi j'ai flippé parce que j'avais le fridge avant à 19h, ce qui fait que je me suis payé un Uber hyper cher.
On fait ça des fois, voilà. Ouais, on dépend tout ce qu'on gagne en trajet.
En trajet, sauf que ça a commencé une heure après,
ouais,
donc t'es là, vrai. Bon ok, ça commence à 20h30 et ça a fini à 22h, c'était trop long, trop long. Donc c'est pas mal aussi cette idée de... Voilà, de
ah
de
oui, faire... oui, mais le spectacle était long et de plein de passages de 5 minutes, c'est ça qui était spécial.
Ah ouais, ouais.
Et c'était vraiment... Et à l'époque, maintenant quand tu vas à un open mic, c'est vraiment que du... Enfin c'est plus ou moins que du stand-up où il ouais. y a des formes un peu, il y a genre des tableaux et tout, mais mm-hmm. là c'était vraiment... genre,
des fois tu regardes,
mais c'était quoi la proposition en fait, ouais. Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Parce qu'il n'y a pas de vanne, et les gens ils mettent une perruque et ils mâchent des biscuits, ils crachent par terre, et c'est le sketch quoi. Tu fais.
Ouais.
C'était 2000, on parle de 2012 là.
2012, donc, et toi justement, qu'est-ce que tu pourrais. Comment, si tu devais analyser l'évolution du stand-up entre 2012 et 2021, en 10 ans, qu'est-ce qui. Plus de 10 ans, qu'est-ce qui.
Bah, le truc, c'est que je pense qu'il y a eu genre une génération et demie avant moi. Ouais. Donc t'as eu en gros les gens qui ont fini au Jamel et les gens ensuite de Bref qui étaient un peu les mêmes, mais il y en avait des nouveaux, tu vois.
Uh-huh.
Moi quand j'ai commencé, ces gens là ils étaient tous comme ça marchait pour eux, ils étaient tous partis en tournée.
D'accord.
Où ils faisaient leur spectacle, mais en gros les plateaux étaient complètement désertés quoi, il restait plus Yacine Bellou et Seb Melia en gros quoi.
D'accord. Et c'est voilà. Toi t'arrives après l'époque du Pranzo en fait.
Ouais, vraiment juste après quoi.
T'arrives et tu l'as fait le Pranzo ou pas?
Ça venait de changer de nom, ça s'appelait.
Ça venait de
changer. Le gymnase, ça avait bougé, c'était juste en face.
Ah, c'était juste en face.
C'est le grenier du théâtre du gymnase.
Absolument, mais je me demande si je ne t'ai pas vu jouer là en allant voir Solène Rossignol à un plateau.
Ah oui, c'est fort probable.
Mais plutôt vers 2016-2015, quelque chose par là.
Oui, parce qu'en fait, la première fois qu'on s'est parlé, c'était un casting, non?
Ouais, c'est ça. Et tu continues de passer des castings de pub, d'ailleurs?
Non. Ils prennent toujours le gars qui a ma tête, mais en mieux. Je ne suis pas vraiment comédien, en fait. Hein, ils s'en rendent compte assez vite. Non, puis c'était vraiment que des castings de pub. Donc ouais, non, je sais pas, il y a un truc que j'arrivais pas. J'ai réussi à faire une pub. Parce qu'en fait, j'avais compris la vanne. C'est-à-dire que je pense que ma capacité d'acteur, c'est vraiment si la vanne est bien écrite, et qu'on me laisse jouer un personnage qui est à peu près moi, je peux ne pas niquer la vanne. Voilà.
Ouais.
Mais je crois que c'est tout ce que je sais faire.
Ouais.
Et donc une fois, j'ai fait ça et ça a bien marché. Mais il faut aussi que tu ressembles exactement à ce qu'il cherchait, même les sourcils et tout. Enfin, quand la pub que j'ai fait, il y a eu un débat sur est-ce qu'on rase sa moustache ou pas quoi. Genre c'était à ce point-là.
Ah ouais, non, mais détail, c'est des trucs débiles. Attends, vu que je suis vraiment une quiche en maths, je vais genre vraiment exactement calculer 2021 moins 2012. Oui, ça fait 9 ans. 9 ans, en 9 ans, qu'est-ce que tu remarques? Il y a certainement plus de meufs qu'avant?
Ouais, alors ça c'est sûr, mais il y a aussi un business, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment le business du one-man show, et ensuite t'as des caves où tu peux, mais c'est pas vraiment, on peut appeler ça un business quoi. Maintenant, c'est un peu, il y a presque une scission entre, il y a encore un business de one-man show, venez voir sur une heure, et t'as de plus en plus de comedy clubs qui commencent à ouvrir, et en gros le type de soirée où il y a plusieurs humoristes qui défilent et tu bois un verre, ça va devenir un nouveau truc comme les bar à tapas ou les trucs comme ça, tu vois. Donc et il y a de plus en plus de comedy clubs qui vont ouvrir, je pense.
Tant même mieux.
En dehors de Paris aussi, il y en a déjà 3 qui ont ouvert à Paris, bon juste avant le Covid, c'était pas le meilleur timing, mais ils ont l'air de bien se porter en ce moment, tu vois.
Ah ouais, très bien, ça cartonne, tant
et,
mieux.
Effectivement, il y avait moins de meufs avant.
En tout cas, les meufs faisaient peut-être moins du stand-up. T'avais peut-être pas mal de meufs parce que de l'époque du Pranzo, tu vois, moi j'ai reçu Nadia Rose, mais elle faisait des sketchs, elle faisait pas du stand-up. Ouais, c'était des numéros. En fait, même Tania Dutel à l'époque était déjà dans un truc un peu absurde. C'était pas encore du stand-up.
Ouais, ouais, je la voyais quand j'ai commencé. Ouais. Elle faisait ça, elle faisait des tours de cartes et tout. C'était marrant.
Ouais, c'est énorme.
Non, mais ouais, c'est. Pour l'instant, les femmes que j'ai invitées dans mon podcast, c'est toutes celles que je connaissais de cette époque-là.
D'accord.
C'est-à-dire, en gros, il y avait. Qui c'est qui faisait du stand-up à l'époque ? J'ai pas encore eu Marine Bousson, mais. Il y avait Candy, Christine Béroux. Bon, Tania, elle montait déjà sur scène.
En effet, Christine Béroux, époque, en effet, du Pranzo. C'est ça.
Et c'est vrai que maintenant, ça c'est un peu, ouais, c'est un peu exponentiel.
Ça, c'est un peu exponentiel. Ouais. Après, il y a Laura Domange qui est arrivée, mais quand même quelques années après.
Ouais.
Et ensuite, de cette époque, toi, tu connais bien Blanche Gardin, mais qui, elle, fait de partie de la génération d'avant du Jamel.
Ouais, moi, je crois que j'ai vu une de ses premières scènes quand elle a repris. C'était dans une cafe. C'était l'Underground Comedy Club, mais c'était dans un bar à Étienne Marcel qui s'appelait Les Cariatides. Et elle venait de reprendre, quoi. Donc,
d'accord, donc toi, t'as vraiment vu, genre, t'as connu, t'as été témoin de la Blanche Gardin, du Jamel, où c'était quand même surtout plus presque des sketchs, quand même. Enfin, en tout cas, ce qui est capté, ce que tu trouves sur YouTube.
Des pastilles sur Canal.
Des pastilles, aussi, des chansons, des trucs à deux, des numéros.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
La pause. Et ensuite, t'étais là, t'étais l'un des premiers spectateurs pour...
C'était un set particulièrement dépressif.
Ouais, bah elle sortait d'HP, non
c'était... C'est possible.
Ouais.
Mais je me souviens de m'être demandé, genre, ça va.
Ouais.
Mais c'était, voilà, donc là, c'était début 2014, on pourrait dire. Ou fin 2013, je sais pas, autour de ça, quoi, tu vois.
Et là, est-ce que toi, en tant que spectateur, tu t'es dit, je suis face à un génie?
Non, c'était intéressant à ce stade. C'était, parce qu'en plus, c'était plus mature que ce que nous on racontait. Tu vois. C'est juste que bon, il n'y avait pas encore les vannes, mais au moins elle parlait de trucs qui étaient beaucoup plus vrais, enfin plus profonds que ce que nous on faisait quoi, à l'époque. Mais en fait, très très vite, je pense qu'elle était déjà en train de préparer un spectacle.
Ouais.
Et je pense que quelques mois après, elle a commencé à, il me semble, à la nouvelle scène. Et puis après, bon, le reste est de l'histoire.
Ouais, légende. Ouais. Et t'as fait souvent sa première partie ensuite ?
Jamais.
Non, c'est pas vrai ? Ah, je confonds. J'étais persuadée que t'avais souvent fait sa première partie.
Non, j'ai fait plein de premières parties, mais jamais de Blanche.
Ah ouais, ok. Ah, ok, erreur.
Je savais même pas qu'elle avait une première... Il y a aussi des gens qui n'ont pas de première partie. Hein.
Alors, c'est Aymeric Lompré qu'elle a eu beaucoup en première partie, alors.
Ah bah oui, ils se connaissent depuis longtemps.
Enfin, ouais.
Aymeric, c'est la génération un peu avant moi. Juste un petit peu
c'est la génération où on ne demande qu'à en rire.
Ouais, voilà, c'est ça.
Avec Constance. Mais Shirley, cela dit. Vérino. Ouais.
Ils ne sont pas tous contents d'avoir fait cette émission. Mais
Non, ouais, je crois que c'est un trauma pour beaucoup d'entre eux. Ouais. Il y en a que ça a littéralement traumatisé, qui ont arrêté le stand-up après, qui reviennent ici ou là.
Ouais. Oui, bah, c'était un peu les jeux du cirque, hein, ce truc-là. Quand même. Ouais. Moi, je regardais presque par... T'avais l'impression de regarder Hunger Games. Enfin,
ouais.
C'était vraiment... Et en plus, moi, je regardais par... Tu sais, quand tu commences, t'as besoin de voir des gens qui sont tellement nuls que tu peux dire, eh, franchement, si lui, il a pas honte. Tu vois.
Sauf qu'ils n'étaient pas nuls, à la base.
En fait, t'avais les pros qui faisaient ça pour se faire connaître, mais ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça. Mm-hmm. Tu vois. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était les gens qui avaient décidé de faire leur première scène à On ne demande qu'à en rire sur France 2. Parfois en direct, parfois pas. Et en fait, je sais pas si j'ai regardé cette émission.
J'ai regardé des sketchs, c'est en effet... Tu vois, des humoristes que j'adore, mais tu te dis, ah oui, c'est vraiment pas leur meilleure facette dans On ne demande qu'à en rire.
Il y avait mon moment préféré, en fait. C'était au tout début de l'émission, il y a une caméra dans les loges qui montre tous les humoristes. Et donc, ils montrent, voilà, il y aura Donald Jacksman, il y aura Vérino, Et là, tu montres un gars, tu sens que c'est la première fois qu'il fait ça, il est complètement en sueur. Et en fait, en plus, moi qui ai pas mal regardé la télé quand j'étais plus jeune, c'était vraiment finalement des moments de télé qu'on voyait pas trop. Ouais. C'était l'échec, mais avec l'air, tu vois, l'air qui est genre comme ça, et les plans sur le jury. Mais c'était très cruel en fait. C'était plus, moi je regardais ça en plus, plus en mode genre bien fait pour ta gueule si t'as cru que faire ta première télé et ta première scène en même temps c'était une bonne idée, tu vois.
Mais c'est tellement dur l'humour à la télé, c'est même la capta télé en fait, t'as l'impression qu'ils y arrivent pas encore, quoi. C'est quand même une catastrophe.
Moi je suis content d'aucune de mes captas.
Ouais, pareil.
Pour moi, c'est que des bides. Du coup, les gens ils m'envoient des messages. J'adore tes vidéos sur YouTube, donc tu adores mes bides.
Mais attends, non, toi, t'as tout mon truc, il y a un carton.
Mais en fait, je pense que les gens ils écoutent plus ce qu'on dit et ils s'en foutent un peu des rires.
Ouais.
Si eux ça les fait marrer, qu'il n'y a pas assez de rires dans la salle, ils font c'est des cons, tu vois.
Ouais.
Et Moi, il n'y a aucun passage où j'écoute les rires et je fais, c'est ça que j'entends d'habitude dans une salle. Tu vois.
Bah, moi, ça me fait chelou parce que comme je suis une grande spectatrice de stand-up et de special américain, ouais. T'as l'impression que même quand c'est un niveau ultra produit Netflix, ouais. Ou même quand ils le font entre eux filmés dans la salle, ouais. Les rires et la réaction du public, l'ambiance générale est hyper importante. Et donc, t'es nourri, biberonné à ça. Et quand toi, tout d'un coup, tu te dis « Oh, je vais donner le truc sur lequel je travaille depuis 4 ans pour 200 balles et qu'ils sont pas foutus de remplir une salle, t'as 15 pélos. »
C'est tellement mal
payé. Ils mettent à peine, ils mettent pas de micro dans le public, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas s'ils ont capté le son.
C'est souvent un problème de son. Hein,
c'est le son, ouais. Ils mettent pas de micro dans le public, il y a que le son du micro. Et t'es là, bah ouais, mais c'est la voix, mais ensuite il faut rajouter un deuxième son dans le public, avoir l'ambiance de la salle, et qu'il n'y a pas de post-prod derrière, et que même, en vrai, j'ai envie de dire, les gars, rehaussez les rires.
Ouais, faites vois, semblant, c'est de la post-prod.
Faites semblant, c'est de la post-prod, quoi. En fait, vous êtes payé. Et en plus, c'est logique, parce que nous, on va être toujours un peu plus stressés de jouer nos textes devant une caméra.
Même quand tu ne l'es pas, ils sont stressés autour de toi avec leur talkie-walkie, et tu essayes de te concentrer, ils essaient encore de te maquiller deux secondes avant qu'on t'appelle.
Deux secondes avant, t'as des retouches, t'as quand même une caméra devant ta gueule, c'est pas comme si tu t'adressais aux gens, tu sais que t'as un temps précis, donc tu peux pas faire des interactions que tu ferais dans un comedy club. Et le public, lui aussi, est moins. Souvent, ça se déroule l'après-midi.
Public, il le trouve des fois. Je me souviens une fois.
Je peux le dire. Vas-y.
Une fois au Jamel Comedy Club, pas ma saison à moi, mais apparemment, ils étaient tellement en galère de public qu'ils sont allés chercher au McDo de Grand Boulevard. Comment tu veux que ça se passe bien après, tu vois?
Ça se trouve. Non, mais parfois, t'as des gens qui sont là, des amis de la prod, disons qu'ils sont là gratos. Parfois, t'as des gens qui ne sont même pas du tout des spectateurs, des amateurs de stand-up.
Moi, j'ai fait une capta, c'était genre la génération après moi qui était dans la salle et les serveuses du club, quoi. Elles connaissaient jamais Van. Hein.
Mais ouais! Donc en fait, c'est trop chelou. En fait, il devrait y avoir un mélange de vrai public, de public payé, d'acteurs, en fait, de professionnels avec un gars qui... J'en sais rien.
C'est ouf, ils se mettent à 50 pour faire de la merde.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que le public va être stressé. T'imagines, ils ont vu 20 humoristes, t'arrives, ça fait 4 heures qu'ils sont là, et ils sont juste fatigués, ils n'ont plus envie de rire, quoi. Ce qui est humain, ce qui est logique, c'est normal, en fait. Là, c'est...
Mais pour nous, les captas, je pense que... Enfin, moi, personnellement, je le fais... Bon, déjà, c'est très mal payé, mais j'ai souvent besoin de cette thune-là quand même. Ouais. Et au-delà de ça, c'est plus pour... c'est si j'ai une salle à remplir au fur et à mesure. C'est juste pour montrer ma gueule, en fait. Et je montre mes meilleures vannes. Si elles sont mal filmées, s'il n'y a pas beaucoup de rire, c'est les mêmes vannes que quand ça cartonne, en vrai. Donc, si les gens, ils peuvent écouter et aimer le texte. Apparemment, ça a été le cas, tu vois.
Mais c'est sûr que c'est quand même décevant, quoi. Ouais. Non, moi non plus, je ne suis pas contente. Là, il y a un truc sur YouTube et je me dis, merde, mais c'est la honte, en fait, tu vois. Et puis, je me dis, putain, j'ai travaillé si longtemps sur ce set et c'est la pire version que personne ne puisse voir, tu vois. Enfin, tu vois.
Bon, il n'y a rien qui t'empêche de le refaire un jour si tu filmes un spectacle plus long. Personne va dire, non, parce que tu l'as déjà fait. Si
ouais, j'espère.
Non, mais attends.
Moi, tous les trucs bien dont je suis contente, c'est que quand je fous maintenant une caméra dans ma salle de spectacle et que voilà, je partage les rires du public qui n'est pas au courant qu'il est filmé.
Là, je fais une dernière captation dans une semaine, mais qui ne va pas rester en ligne longtemps.
C'est
j'espère.
Pourquoi
c'est un truc avec 6, mais c'est pas M6.
Ok.
c'est une succursale, je crois.
Ok. Culture Box.
Non, 6 Play, ça doit être ça, ouais.
Ok.
Bref. Ça, je le fais vraiment parce que j'ai besoin d'argent en ce moment, mais. Ensuite, la prochaine fois que je suis capté, c'est moi qui décide et c'est moi qui engage les équipes et c'est ma thune, quoi, tu vois.
Ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire.
Qui t'amène dans la merde
financièrement. Grave.
Mais j'ai l'impression que le public n'est pas, pour ce qui est des vidéos
Tu penses qu'il
n'est
pas trop dur là-dessus
Le public veut juste savoir ce qu'on dit, quoi. Mmh. Et moi, je sais que quand je regarde des vidéos d'humoristes qui ne marchent pas très bien dans et que j'aime les vannes, je me dis, bon, c'est le public qui est mort, qui ne comprend pas le délire. Quoi.
Ouais, t'arrives à penser comme ça. Moi, j'avoue que je suis souvent influencé par les rires.
Non, disons que ça me ferait chier si c'était mon special et que je le sortais. Ouais. Mais là, c'est plus. C'est moi qui partis. C'est même pas moi qui gagne l'argent sur les vues, tu vois. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment plus ou moins pour montrer ma gueule et qu'au bout d'un moment, on finisse par s'habituer à ce que j'existe.
C'est clair.
Enfin, moi, je sais que toutes les vannes que j'ai sur Internet, j'ai encore plein de souvenirs de toutes les fois dans plein de salles où elles ont cartonné, mais mille fois plus. Tu vois.
Mais c'est ça.
Et c'est très frustrant de les voir.
Ouais.
Puis là, tu vois, j'en ai fait un où, c'est pas leur faute, mais il y avait le Covid, donc ils ont pris un théâtre de 500 personnes et ils ont mis 80 personnes dans la salle.
Donc ça fait vide,
Et voilà, donc c'est pas ouf, quoi.
Mais le rendu est pas ouf, quoi. Le rendu est pas ouf, c'est juste dommage.
Et ils ont mis une caméra, genre, au premier rang.
Ouais.
Et du coup, c'est immonde ce plan où on dirait que j'ai... c'est à la limite, dans l'autre sens, c'est mieux, tu vois. Mais c'est un angle où tout le monde est un peu en triangle, comme ça. C'est parce que je lançais mon spectacle, donc
moi je me trouve toujours trop grosse. Après, parfois quand c'est sur les chaînes, je m'en fous un peu parce que je me dis, en vrai, il y a des chaînes que personne ne va regarder. C'est à partir du moment où ça arrive sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je suis en mode
j'ai appris à essayer de dompter ma dysmorphophobie parce que j'ai accepté que je me trouverais toujours affreux partout.
Ok.
De temps en temps, il y a un gars, il prend une photo bien de moi, je fais j'aime bien ça, je vais la poster, mais en vrai Voilà, mais non, au niveau de la qualité du travail, non, si je voulais vraiment présenter mon travail comme ouais. je veux qu'il soit présenté, je prends les choses en main, quoi.
Bah, carrément, ouais, non, c'est sûr, hein, c'est à soi de.
Surtout pour un mec comme moi, parce que tu sais, les chroniques, ça m'intéresse pas trop, ce mm-hmm. format. Et du coup, au niveau de la visibilité, il n'y a pas d'autres options vraiment, au bout d'un moment, que de mettre mon travail sur Internet.
Complètement, complètement. Et en vrai, la qualité de l'image est moins importante que le son.
Absolument.
Parce que tu vois Sam Morril, Mark Dorman qui mettent sur Insta leur passage plateau. En vrai, parfois, l'image est sale, mais parce que c'est des questions de lumière. Mais juste, en fait, si eux, leurs vannes sont bonnes et qu'il y a de l'ambiance, ambiance dans la salle, et c'est vraiment, ils arrivent à capter au niveau sonore l'ambiance de la salle et même ce que dit les interactions, quoi. Donc ce que dit le public dans la salle, et c'est ça le plus important. Et ensuite, que l'image soit un peu pixelisée, on s'en branle complètement, quoi.
Pierre Thévenoud, il met des vidéos d'impro sur son YouTube, et bah il fait un bon score, hein, quand même,
bien sûr.
Pour la qualité que c'est. Donc il s'excuse sur chaque vidéo, il dit je suis désolé, c'est de la merde, et en vrai les gens ils kiffent, quoi,
ouais. Carrément, non, ça il faut le faire. Alexis Le Rossignol aussi le faisait, Seb Melia aussi le faisait, et ça marche très bien. Et en effet, c'est vraiment pas. On n'a pas à être beau, en fait. Parfois, tu te dis, en effet, toutes ces espèces de.
C'est vraiment pas le job, quoi.
Non, c'est vraiment pas le job.
Même moi, quand j'ai commencé, on me parlait de mon apparence physique et tout, ça a un peu disparu, ça, au fur et à mesure. Mais c'était. Moi, je suis pas là pour être beau gosse ou quoi que ce soit. Genre, je suis vraiment là pour faire marrer. C'est presque, une antithèse, quoi, tu vois.
Complètement.
Et. C'est vrai que.
Ça, c'est très oppressant quand tous ces discours autour de. Contrôler l'image, ce qu'on renvoie, moi, c'est un truc qui peut parfois vraiment me faire flipper, c'est quand on me dit « Alors, c'est quoi ta singularité, ta marque, ta signature ?»
C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar, parce que t'es là, mais en fait, c'est pas mon taf de penser à ça, de réfléchir à ça. En fait,
c'est un taf de journaliste. Hein,
exactement, en fait, vous brandez l'idée que vous faites de moi. Mais ensuite, je trouve qu'en fait, quand l'artiste le fait lui-même, ça se voit à des kilomètres.
Moi, ça me rend ouf, ça.
Et ensuite,
parce qu'en plus, je vois les options qui sont là pour moi. C'est-à-dire, soit je dis je suis l'humoriste féministe, soit je dis je suis l'humoriste qu'on a marre de la cancel culture ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors après, il y avait des options genre l'ancien rocker, le
ça,
genre idéal, le mec dépressif, mais je suis tout ça et rien de ça, en fait, tu vois. Genre,
l'humoriste féministe, ça serait rigolo, cela dit.
C'est facile à vendre après, et on sait jamais ce qu'il y a derrière dans ton passé, tu vois. C'est fou. Après, tu travailles pour ces gens-là, si tu veux, d'un point de vue médiatique. Même si je suis féministe en moi, si je le dis en public, maintenant je travaille pour le média féministe.
En fait, c'est vrai qu'il ne faut pas être militant dans le sens où il faut pouvoir toujours continuer à faire des blagues. Après, étant donné que vous êtes plutôt minoritaire quand même en tant qu'humoriste mec à vous revendiquer féministe et à...
Mais justement, je ne veux pas me revendiquer féministe parce que la plupart des gens qui font ça ont violé une meuf en 2008, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc que les mecs disent en date maintenant, genre le patriarcat, c'est chaud. Donc, faut que tu me suces, quoi. C'est vraiment ça.
Peut-être
que c'est
devenu les profèmes. Mais dans le milieu de l'humour, nous, à part Joseph Roussin, Rémi Boy et Fred Cham, t'en connais des humoristes féministes?
Bah, je connais quand même beaucoup d'humoristes qui sont pas des harceleurs sexuels.
Non, mais c'est pas ce que je dis.
Ils disent
c'est
pas
vrai.
Que les grosses putes.
Non, mais bien sûr, même la plupart de mes potes, ils sont tout à fait. C'est pas juste des humoristes qui tiennent un propos féministe sur scène.
Bah, moi, je me méfie toujours
de
ça parce que je me dis ça cache toujours peut-être un truc. Ou le moins pire que ça peut cacher, c'est juste je veux me brander pour qu'on reconnaisse et qu'on aille me voir.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, moi, s'il y a un propos, ça m'intéresse plus, même s'il faut pas le réduire en une phrase, mais je trouve qu'à partir du moment où c'est encore minoritaire et que c'est tellement pas la parole généralisée sur les plateaux, moi j'avoue que je trouve ça plutôt cool quand quand c'est bien pensé. Je sais plus justement, attends, qu'est-ce qu'il racontait Joseph dans son dernier set? C'est le truc de... où c'est Fred qui disait c'est moi le problème. Enfin, je trouve que l'angle reste encore suffisamment original et ténu pour que je vois pas... J'ai l'impression que la majorité des humoristes qui cartonnent, que tu vois sur les gros line-up, etc., c'est très loin d'être féministe, leur discours.
C'est-à-dire que pour moi, en fait, le stand-up, c'est pas censé être ça. Le stand-up, c'est faire croire que je vais être pas dans votre sens, et à la fin de la vanne, tu comprends ce que j'essayais de faire, tu vois.
Ou
si j'arrive en disant je suis un connard, je suis blanc, et puis les mecs, c'est des violeurs, je sais, je suis désolé pour le patriarcat. Non, c'est pas. Il n'y a aucun défi, en fait, parce que tu prêches probablement des convertis en général. Il n'y a pas quelqu'un qui lit Valeurs Actuelles toutes les semaines, qui va voir ton sketch et qui va faire ah, c'est vrai que je suis un peu macho quand même. Enfin, je crois très peu à ça personnellement.
Je vois ce que tu veux dire, mais en fait c'est tout. J'ai l'impression que c'est peut-être la complexité du stand-up aujourd'hui par rapport à 2012, j'en sais rien. Il y a eu peut-être Anna Gatsby entre-temps. Tu l'as vu ou pas son spectacle?
Ouais. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle raconte sur le stand-up.
Okay.
Mais Mais je comprends comment, enfin, tu sais, être homosexuel dans une petite ville de campagne, c'est un... enfin, je serais vénère aussi, hein, tu vois.
Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, c'est juste que c'est un entre-deux où tu te dis, ah, comment je peux essayer de...
J'aime pas donner des leçons aux gens.
Non, mais évidemment, bien sûr, c'est la hantise, c'est l'enfer. Mais parfois, y a juste... si une blague est bien faite...
Ah oui, bah, si la vanne est bonne.
Elle est censée pouvoir te pousser un petit peu dans un espèce de truc, ah... Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Je vois Sarah Silverman, elle essaye de le faire en ce moment dans son podcast. Alors, c'est pas toujours marrant, quoi, parce qu'elle essaye de trouver de nouvelles blagues woke, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu l'écoutes.
Non, je connais son stand-up, mais j'ai pas écouté ça.
Justement, elle essaye de dissocier avec du Sassy Magic et son passé, etc.
Elle a quand même dit des trucs assez chauds il y a une quinzaine d'années. Enfin, c'était un personnage un peu ignorant, si tu veux.
Mm-hmm. Bah, c'est ça.
Mais c'est aussi des gens où tu sens qu'ils essayent un peu de renverser la tendance pour pas qu'on les accuse d'avoir dit des trucs il y a 10-15 ans, tu vois.
Exactement.
Et tant mieux, hein, si les gens évoluent et grandissent, c'est cool.
Ouais.
Mais moi j'ai toujours l'impression que ça cache quelque chose. J'ai vu énormément de gens sur scène prêcher et dire je suis formidable et faut y va. Et quand tu vois comment ils traitent les gens en dehors de la scène, la différence, elle est incroyable, quoi. C'est des gens qui font pleurer des gens dans les loges, quoi.
Ouais.
Qui ont dit oui. À force d'avoir vu ça, c'est vraiment devenu difficile pour moi de faire confiance à une parole public.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, Adrien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, on est sur scène pour montrer la part d'ombre. On est sur scène absolument pas pour donner une leçon, mais pour être le pire exemple. Mais dans ce pire exemple, donner l'idée de ce qu'on rêve, ce qu'il faut, ce qui paraît très
ça,
bien.
Ça, je l'ai toujours fait, mais on s'en est jamais rendu compte. On a toujours dit, enfin, l'idée, c'est comme je disais deux, trois gros mots, je parlais de cul, tu vois. Alors qu'en fait, j'étais le premier. C'est incroyable que j'étais le premier humoriste à venir sur scène et à dire l'homophobie, c'est pas ouf. En 2016. À l'époque où les humoristes homosexuels étaient soit dans le placard, soit ils faisaient la folle de service, tu vois. J'ai toujours fait ça dans tous mes passages. Je dis, bah, le fait qu'il m'a laissé partir parce que je suis blanc, donc c'est plus facile, tu vois. Mais en fait, ça passe tout comme c'est marrant et que je le dis vite. On a l'impression que je parle pas vraiment des vraies choses, mais j'ai jamais vraiment dit des trucs que je pensais pas. Parce qu'évidemment, il faut pas faire le truc inverse où je vais pas non plus faire des trucs faussement anti-woke juste pour ça, tu vois. Genre, pas faire des vannes sur le viol et après faire non, mais je rigole.
Ouais.
Mais y a une... pour moi, ça manque de subtilité si on va dans un sens ou dans l'autre. Pour moi, c'est autre chose le stand-up, tu vois.
Ouais. Non, mais c'est... En fait, j'ai l'impression que le stand-up, c'est... Moi, je vois vraiment si... Comment faire des blagues qui soient, tu vois, à la fois woke et beauf, tu vois. tu te dis peut-être... Je me dis, l'angle, c'est de prendre son endroit d'ignorance et d'essayer de dire, waouh, la société change, je suis pas contre, c'est juste que moi, je vais peut-être pas à la vitesse du progrès, mais d'essayer de ne pas être contre le progrès, quoi. Ça, déjà, ça fait un angle sur lequel écrire de nouveaux trucs, parce qu'il se passe plein de choses, en effet. Après... Oui, carrément. Je ne sais plus, c'était Fabrice Eboué dans le podcast de Seb Melia qui disait que lui, à son époque, mais c'était en mode accent à gogo. Enfin, tu vois, il y avait un truc où c'était...
Mais c'est pas les trucs que j'approuve, si tu veux. Je dis pas...
Mais c'est marrant, quoi. Comme quoi, ça a réellement changé. Tu vois, il y a un truc où... mais je suis pas forcément bien. C'est-à-dire, moi, je suis pas pour la censure du tout. Tu vois, je veux dire...
Le problème, c'est surtout le harcèlement en ligne, en vrai. Si c'est deux articles, on s'en fout. Si c'est deux tweets, c'est quand les gens commencent à t'envoyer les menaces de mort dans tes DM que ça devient, ça devient relou. Au-delà de ça... non, effectivement, il y a eu des trucs très racistes et très homophobes qui ont été dit sur scène.
Et sexistes, évidemment, et misogynes.
Oui, absolument. C'est-à-dire que trop aller dans l'autre sens, enfin, je me sentirais bête de que tout mon spectacle, ça soit, c'est vrai que c'est vraiment moi le problème, parce que je suis un mâle blanc hétéro.
Non, mais en fait, je trouve ça cliché, évidemment.
Là, c'est du branding.
Et puis surtout, tout le monde l'a fait, hein, le côté, je suis un mâle blanc hétéro, etc. Je suis un homme.
Personne. En fait, moi, ce qui m'attirait dans le stand-up, c'était que c'était vraiment. C'était ça l'ethnie, en fait. C'était ça le genre qu'on était, c'était stand-up, tu vois.
Oui.
C'était un truc qui pouvait englober tout le monde, quel que soit l'âge, n'importe quoi, tu vois.
Ouais.
Pour moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, si on commence à nous ramener à chaque fois à ce qu'on est, pour moi, c'est l'inverse de ce qui m'intéressait dans le stand-up. Si t'es drôle, t'es dans la... T'es ça, quoi, tu vois.
Ouais. Après, moi, ce qui m'a toujours... Même si les temps changent, moi, ce qui m'a toujours plu, c'était des paroles de vulnérabilité, tu vois.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et pas des paroles d'agressivité. En fait... Je pense que t'as... Je sais plus, j'avais dit ça dans l'un des premiers épisodes, mais ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Que t'as trois types d'humoristes. T'as celui, un peu le bully au fond de la classe qui balance tu vois, genre du papier, un truc de papier sur le mec au premier rang. t'as le mec au premier rang qui reçoit la truc de papier sur la tête et t'as celui au milieu qui observe les deux. C'est trois types d'humoristes un peu différents, tu vois. Tu vas voir le premier rang qui est la caricature un peu de la Vicos qui fait beaucoup d'autodérision.
J'essaie de voir lequel tu es.
T'as celui du milieu qui fait de l'observation et t'as celui derrière qui fait beaucoup de vannes. Et idéalement, il faut être un peu des trois, tu vois.
Je suis assez d'accord, ouais. Parce qu'en gros, moi, je suis le mec du premier rang, mais qu'au bout d'un moment, il a pris trop de boules, donc il a fait, elle a vous fait enculer. Mais
il est devenu le mec du fond.
Mais comme j'aspire à une vie pas trop compliquée, je suis souvent le gars du milieu qui observe.
Bah moi je suis CM, souvent je dirais dans la proportion, je dirais je suis deux tiers l'élève au premier rang et le reste observation et bully, moite-moite peut-être.
Ah bully c'est il y a un côté, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi un sniper dans, si on le dénégativise ce terme, tu vois, c'est le gars qui va dire le truc.
Ouais, tout sens monde de la dire. Punch. Ouais.
Sans, façon, moi, même si je voulais être un bully, ce serait même pas, pas crédible. Tu vois. mais j'ai le droit d'être vénère aussi, des fois. Tu vois,
ouais, bien sûr, c'est étonnant. Moi, parfois, je le suis plus peut-être dans des interactions.
Ouais.
Je suis dans des interactions, il faut sans tailler, avoir la notion de ce qui peut. Tu vois. Ça, c'est un truc que c'est vrai que tu apprends, qui me terrorisait au départ et que maintenant j'apprécie.
Ah, sur parler au public, tu veux dire.
Ouais.
Bah, en plus, si tu le fais à ton spectacle où les gens ont payé pour te voir. Voilà. C'est quand même une bienveillance assez...
Complètement.
Enfin, moi, j'ai fait deux représentations de mon spectacle, globalement. Alors que je ne fais jamais d'impro dans les plateaux, c'est marrant parce qu'ils sont là, ils sont contents d'être là.
Donc ça y est, t'as eu ta première au point ?
J'ai fait la deuxième hier.
Alors, ça s'est passé comment ?
Bah, c'est cool, hein. De toute façon, je suis content des blagues et les gens sont contents d'être là. C'est juste, maintenant, il faut que les gens viennent, quoi.
C'est génial, c'est génial. Bah, t'avais du monde, quand même ?
Non, j'ai pas le meilleur créneau du monde et c'est pas la meilleure période possible.
Ouais,
donc,
c'est très difficile.
Je suis pas sûr que je peux arriver à plus d'un tiers de salle sur les 10 dates que je vais faire.
Bah, c'est déjà bien, un tiers de salle.
Très content.
Un tiers, ça fait une quarantaine de personnes ?
Ouais.
Ouais, trentaine.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et non, moi je suis content, c'est vrai que bon bah...
Trentaine au point, en vrai, ça fait tout le bas, quoi. Ouais.
Moi ce qui m'a toujours... En plus, ce qui m'a toujours... L'idée de faire, bon bah je m'installe et maintenant je le fais pendant 3 ans et je sors pas de Paris, à un moment je vais en tourner devant des yeux et après je refais un spectacle. Moi ça, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ce métier parce que ça m'ennuie en fait, ça me stimule pas, ça m'excite pas, quoi. Mais
il
n'y
a pas que des yeux en province, hein.
Ça dépend comment est vendu le spectacle.
Ouais.
Parce que si tu le vends via une mairie, tu vas avoir les abonnés et tu vas avoir littéralement 50 vues. Et j'ai rien contre les personnes âgées, évidemment. Mais non, mais sérieux, c'est des gens avec qui je m'entends très bien dans la vraie vie, si tu veux. Mais leur capacité à être de bons spectateurs, ils sont vraiment au premier rang, les bras croisés. Et même s'ils trouvent ça formidable, ils ne vont pas vraiment le vocaliser.
Mmh.
Et on se fait chier, quoi. Et en plus, on a l'impression qu'on prend un four.
Ouais, moi, il y avait des vieux, là, vendredi soir, genre, je sais pas, 60, 75, enfin, un groupe de vieux, quoi. Mais ils étaient plutôt réactifs, ils riaient pas mal, ils riaient assez fort.
Ah bah, il y en a qui sont de bonne humeur aussi.
Il y en a qui
sont
de bonne humeur, il y en a qui, au contraire, il y en a qui ont beaucoup d'humour. Il y en a qui ont... Justement, il y en a parmi les vieux, l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment pas du tout woke. Mais tant mieux, parce que parfois, ils ont une espèce de rire gras décomplexé qui est moins le rire surveillé que notre jeunesse bobo parisienne qui doit faire valider la blague par 150 000 filtres de est-ce que c'est problématique ou pas, tu vois.
Ouais, non, mais je suis content. Si je fais mon spectacle au point virgule et qu'il y a des personnes âgées dans la salle, je suis très content. Mais c'est vrai qu'en faisant des premières parties de beaucoup d'artistes qui partent en tournée, qui jouent dans des salles entre 500 et 1000, on va dire, quand c'est vendu par... Quand c'est vendu à une mairie pour beaucoup d'argent, tu vas avoir les abonnés qui viennent voir tout ce qu'il y a, donc qui sont allés voir Fabrice Luchini la semaine dernière, et là ça va être quelqu'un d'autre. Et c'est en fait leur appréciation du spectacle, elle est peut-être genre idéale à l'intérieur de eux, mais nous on le voit pas et on se sent jugé. Et les gens cool, ils sont au front.
Et de toute façon, on a toujours des publics anti et des publics favoris, et ça varie tout le temps. On est tout le temps en train de se dire ah, eux, je les déteste. En fait, ça, j'adore. Parfois, tu vois, moi, je suis là, je sais plus. À un moment, j'étais dans un truc de les bobos, ils sont coincés. Et puis, alors, tu vois, et puis tu fais une scène et ça cartonne. Hier soir, j'étais.
Ils sont où les bobos à Paris ?
Et ils sont au Motel Comedy Club.
Ah ouais. ça sature un peu quand je parle des fois.
Si tu veux, je peux baisser un peu le son de ton micro. Parfois, il faut pas être trop proche.
Il faut pas que ton audio soit trop...
Ouais, t'inquiète, mais c'est parfait.
Au motel,
au motel, le plateau de Hugo Gertner et Thomasy. Et dans le 11e, passage Josset, métro Le Drurolin, c'est les dimanches à 19h. Et c'était une ambiance géniale. Et franchement, c'est vrai que, bon, on va pas se mentir, hein, c'était très white. Mais ils étaient... tu vois, justement, je prépare le set que je veux faire pour Pasquinade. Et Haroun m'a dit qu'il ne voulait pas quelque chose d'a priori de cul parce qu'il voulait un angle un peu plus original. On en a discuté, mais enfin, c'était pas. Il a essayé de présenter ça de façon le moins.
C'est pas dit, tu pourrais ne pas parler de Tacha, c'est ma plateforme.
C'était pas ça. Mais c'était. Il voulait un truc très personnel. Et donc, j'ai dit, si tu veux, je peux faire la partie que je fais dans mon spectacle sur mon enfance, ma famille, mon père communiste, etc. Sauf que c'est des trucs que j'ai très peu rodés en plateau parce que ultra référencés. Et donc, il m'a dit, ouais, c'est ça que je veux. Et donc, je l'ai testé hier soir au motel. Ouais. Et carton, tu vois. Mais carton sur. Parce que les gens ont la rêve de Barbara et de quand j'ai dit j'ai dit Léo Ferré, les gens pouvaient dans le public dire avec le temps va, tout s'en va, ils savaient chanter la chanson, tu vois. Donc je ne sais pas si je retrouverai ce public partout, et là ce soir je fais un autre plateau et je suis déjà en train de, voilà, d'être dans une angoisse avec mon mal au cou de me dire ça y est, je vais refaire ces mêmes blagues, elles vont bider. Et c'est ouf parce que je sais pas comment toi t'arrives à dompter ça, mais moi j'arrive pas à dompter les joies et les bides, vraiment. Si ça marche, si j'ai des rires, mais ouais. J'ai besoin de rien d'autre dans ma vie, genre ouais. Vraiment je suis juste trop heureuse, ouais. Et si j'ai des bides, et j'ai envie de me suicider mais littéralement envie de mourir.
Mais ça c'est tous les humoristes vont dire la même chose. Hein, ouais. En fait, c'est ça le danger, c'est qu'on associe notre ego à notre succès sur scène, enfin à notre estime de nous-mêmes, à ce qui se passe pendant qu'on est sur scène. Idéalement, c'est très difficile, mais idéalement, il faudrait séparer les deux, quoi. Ouais. Et juste voir ça comme, c'est une suite de mots que j'ai dit qui a pas marché ce soir. Ouais. Tu peux l'étudier comme un scientifique, tu vois, pourquoi ça a merdé comme un crash.
Et
c'est vrai qu'on sait nous, quoi. Donc,
mais pas vraiment, justement, c'est ça le problème, c'est que t'as beau mettre l'audio, etc. Ouais. En fait, en gros, moi, mon spectacle, je sais toujours que ça va bien se passer, mais c'est les plateaux, et notamment, t'imagines les plateaux et les captats télé que j'ai pu faire récemment, ou les trucs où tu vois, en effet, tu vois des vieux, ouais. Et puis des pas qui aiment pas le stand-up, qui me regardent, et tout ce que je leur dis, mais il n'y a rien qui fait écho. Et c'est même pas que ça les fait pas rire, c'est que parfois ils me regardent méchamment, ils comprennent pas, ils pensent que je les. Enfin, et la rencontre se fait pas. Et au lieu ça de me arrive. Dire, c'est ce public. Ouais. Je me dis mais non, et puis toi tu deviens nul parce qu'en fait tu commences à bredouiller puisque t'as pas la musique qui se met en place.
Ça m'arrive encore, hein.
Ouais, c'est vrai, ça t'arrive encore.
Ah oui, moi c'est jamais été naturel pour moi de monter sur scène et de parler au public. Ouais. Pour le coup, j'ai joué dans des groupes, mais je jouais de la basse et je sautais partout et puis c'était cool, mais tout seul avec mes mots et ma personnalité, c'est lourd. Et quand tu sens qu'ils t'aiment pas, ça réveille la partie en toi qui t'aime pas non plus. Et du
exactement.
Coup, je le savais. J'en étais sûr.
Exactement. Quand ils t'aiment pas, ça réveille en toi la partie en toi.
Tu sais, je peux faire une blague qui cartonne tous les soirs. Et le soir où je la fais, où elle marche pas du tout, je fais en même temps, vous avez raison, elle est nulle.
Mais ouais. Tu vois. En fait, le problème du bide chez les humoristes, c'est qu'on a déjà tellement d'autodétestation en nous que ça vient surligner ça.
Ça confirme ce que tu pensais de toi.
Ça confirme. En fait, à chaque fois que t'as un rire, t'as finalement, je suis pas si tant de la merde que ça.
Non, après, j'ai eu des phases un peu dépressive où je cartonnais et je ne ressentais rien.
C'est vrai.
Avec des blagues que j'aimais bien, qui étaient récentes. Hein. C'était pas du pilote automatique, tu vois. Mais c'était juste genre, ça va tellement pas que même ça suffit pas, quoi.
Ah.
Mais j'avais quand même la satisfaction de me dire, au moins j'ai bien fait mon travail. Et il y a quand même toujours la victoire un peu, tu sais, jeux vidéo ou genre un panier au basket, genre, je l'ai quand même mis ce panier, tu vois. Mais il y a des phases où j'étais un peu genre, que j'en ai à foutre, tu vois.
Et comment t'as fait pour sortir de cette dépression?
Comment j'ai fait? En fait, à un moment, c'est devenu genre tellement chaud que le corps, c'est même devenu genre dans mon corps, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est un peu comme ça qu'on développe des tumeurs.
Ouais.
en gros, je me suis dit, on va trouver une solution, quoi.
T'es allé voir un psy?
Non, j'ai pris des vitamines.
Juste des vitamines?
Non, mais en fait, l'idée, c'est que tu peux aussi très vite,
des antidépresseurs, sinon?
Non, enfin, c'est que des trucs que j'ai essayé quand j'étais plus jeune et j'ai pas eu une très bonne expérience. Mais l'idée de recadrer un peu ta réalité, tu vois, et de peut-être, quitte à s'isoler un petit peu plus, tu sais, se protéger un peu de quelques trucs qui font chier, quoi. De dire, en gros, c'est entièrement ma responsabilité, donc qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, les solutions finissent par finalement arriver assez vite, tu vois. Puis l'avantage, c'est qu'en plus, j'ai 35 ans, donc, même à l'époque, j'étais un peu plus jeune, mais c'est plus simple quand tu es un peu plus âgé d'avoir des solutions, tu vois. Là.
Parfois, il y a des solutions concrètes. C'est tu te dis, ce lieu est toxique, en fait, les gens ne me veulent pas du bien, en fait, je vais plus mettre les pieds là-bas parce que je me rends compte que ça me détruit un peu à chaque fois. Ouais. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais après, il y a des choses plus profondes et c'est pour s'en sortir, c'est compliqué. Mais
c'était un peu vraiment à partir du moment où je me disais, ok, enfin c'était vraiment genre comment je change ma perception de ma réalité, de ma vie, des choses autour de moi. C'était aussi accepter beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu te prends un certain nombre de faits dans la gueule qui te montrent un peu comment le monde fonctionne et c'est pas très joli et il y a une phase de oh putain, et après tu fais bon c'est comme ça, quoi, tu vois.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, tout te dégoûte en fait, le monde te dégoûte et le monde est fait
Ouais. T'as l'impression que c'est limite l'inverse, c'est toujours les gentils qui gagnent, c'est
non,
toujours l'inverse.
C'est toujours les méchants qui gagnent.
C'est toujours les gens qui ont triché, qui ont intimidé, qui ont marché sur la gueule des gens, et tu fais, bon, qu'est-ce que j'ai envie de. J'ai même pas envie de me battre, tu vois.
Ouais.
Et après, tu fais, bon, bah, on est quand même là, tu vois, j'ai encore un corps qui fonctionne, tu vois.
Les relations d'amour aussi font beaucoup de mal. Moi, c'est ça qui peut me plonger dans des états de tristesse infinie.
Ouais, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté. Hein. Enfin, arrêté, je sais pas, mais. Je sais pas quelle aurait été ma vie sentimentale sans le stand-up. C'est vrai que ça. Même au niveau de l'emploi du temps, c'est compliqué en fait.
C'est vrai.
Et puis c'est un truc où bah c'est ta carrière quoi. C'est vachement
un
job.
En même temps, ça nourrit aussi vachement. Parfois, t'as envie de te dire putain, il faut qu'il se passe un truc dans ma vie là, vite fait, en ce moment, pour pouvoir écrire, avoir l'impulsion, avoir. C'est quand même un super.
Et moi, je l'ai créé ces trucs-là. Je me paye des voyages. Je rencontre, je parle à des gens dans la rue. J'essaie de. Quand je peux pas pendant tout le Covid, bon, bah, je peux pas sortir. Mais comment je nourris mon cerveau quand même. Donc, je sais pas. Je vais regarder des vidéos d'histoire pendant 5 heures sur YouTube et essayer de comprendre un peu le monde. C'est à toi de nourrir ton cerveau, tu vois, et de vivre des expériences.
Ouais.
C'est vrai que mais des fois, elles t'arrivent pas naturellement, donc c'est à toi de les provoquer un petit peu, je pense.
Bah, je trouve que les expériences amoureuses, moi, m'aident bien pour écrire. Pourquoi ? Ouais. Parce que souvent, t'expérimentes un peu la honte. Et j'ai l'impression que c'est le sentiment de départ pour moi pour écrire. C'est pas tellement la peine, c'est un peu la honte.
Ouais.
C'est un sentiment un peu d'humiliation de quelque chose que... Et tu te dis, waouh, il faut que j'en parle en fait. Et parce que c'est le seul moyen d'exorciser, de rire de soi et d'être là, j'avoue, c'est chaud, tu vois.
Ah,
et d'avoir un peu honte de moi, un peu honte de ce qui s'est passé.
Ah, moi, c'est mon mode par défaut, donc c'est pas un truc auquel je me dis, j'ai pas forcément besoin d'avoir plus de relations pour avoir déjà honte de celle d'avant, tu vois.
Bah, parfois, si. En tout cas, la confrontation. Mais bon, parfois, ça pourrait bien se passer. Hein. Ça pourrait.
Mais parce que t'aimes bien le conflit et que du coup, ça. Enfin, je sais pas. C'est pas un truc que je sais de toi, mais au niveau des relations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans des relations qui ont l'air de plus ou moins tenir, mais où ça s'engueule tout le temps. J'aurais jamais la patience pour ça.
Ah non, moi, j'aurais jamais la patience non plus. Non, moi, je crois que, franchement, si je trouvais quelqu'un qui me posait, je le ferais direct et de façon simple. Peut-être que. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai dû peut-être, je sais pas si t'es comme moi, du mal à accueillir ou à laisser de la place. Je pense que je suis très solitaire et que, résultat, les gens qui m'aiment ou qui me veulent du bien, bah, j'ai peut-être tendance à être un peu parano, à pas trop y croire ou à me dire de toute façon ça va s'arrêter, ça va finir.
Ouais.
Et les gens qui me veulent du mal, leur dire, mais t'es un connard, lâche-moi.
Oui, ça décrit un peu comme je suis aussi.
C'est très dur, quoi, de trouver un semblant de. Mais et c'est pour ça aussi, cela dit, que j'adore la camaraderie entre humoristes. J'ai l'impression que il y a un truc quand même qui est top parce que tu y a aucune pression d'engagement, tu te retrouves toujours un peu par hasard, tu sais jamais qui est sur le line-up, t'as toujours ce plaisir d'être là, salut. Et sans ce, moi je, enfin tu vois ce côté de se donner rendez-vous pour boire un verre.
Je fais plus ça moi.
C'est un fatigant quoi. Tu vois, t'es là en fait, j'ai pas le temps, ça prend toujours du temps sur autre chose du travail. Tu vois, je le fais parce qu'entre meufs, entre copines, il faut le faire. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne l'amitié entre femmes. Tu te fixes des déjeuners ou des cafés, tu le fais et t'es contente de le faire parce que c'est hyper important. Mais même, c'est vrai que j'ai du mal à. Comment dire ? Je trouve que la camaraderie entre humoristes, c'est un truc hyper cool. C'est vrai que c'est un truc hyper cool.
Ouais, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans le stand-up, c'est l'aspect. L'aspect culture, tu sais, culturel, comme le hip-hop ou le punk, ou les trucs comme ça, et l'aspect communautaire qui va aussi avec, tu vois.
Mm-hmm.
Moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé. C'est vrai que souvent, quand j'ai des incompréhensions avec des collègues sur notre perception du métier, c'est vraiment parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ça, en fait. Ils sont juste là pour briller sur scène, encaisser.
Complètement,
Et même si c'est pas du tout cynique ou quoi, mais bon, ils ont leur rire, ils sont contents, et ensuite ils ont leur thune, et puis après ils rentrent chez eux, et le reste, ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Et c'est comme ça qu'aussi, ils peuvent arrêter de faire des plateaux. Je peux respecter ça, parce que chacun vit sa vie comme il veut, tu vois. Mais moi, c'était vraiment l'aspect, on fait partie d'un mouvement culturel un peu, tu vois, un truc qui. Mais c'est parce que je faisais un peu ça avec la musique, tu sais, je jouais dans des caves.
Et tu crois pas que c'est l'influence des États-Unis aussi ? C'est qu'on les voit faire ça en toi. Moi, j'étais, tu vois, on a tous les deux, j'imagine, été amoureux de la série Louis, où tu vois les soirées au Comédie Cellar. Et ensuite, quand tu vois les podcasts américains où ils s'invitent les uns les autres, t'as ce sens du sentiment d'une famille. Moi, je pense que aussi. Je trouve les humoristes globalement assez intelligents et fascinants. C'est vrai, parfois les gens me disent « Ah ouais, le podcast, il faut que tu fasses évoluer, il faut que tu invites des acteurs, des machins, des trucs. » Et parfois, je leur dis « Ouais, mais en fait, j'ai rien à leur dire. Enfin, » En fait, j'ai rien à dire à quelqu'un qui ne prend pas le risque de bider.
Mais tu sais, quand j'ai commencé mon podcast, on m'a dit « Ouais, mais t'as vu que des humoristes et que du stand-up, ça va faire chier les gens. » Je fais « Ok, tu sais, je ne suis pas vraiment journaliste, donc si j'invite Vald, tu veux que je dise quoi ? Alors tu fais du rap, t'aimes bien la musique ?» Je le connais pas. En fait, moi, je suis capable... Ouais, enfin, je suis capable de plus facilement parler avec des humoristes parce que bah, on a des expériences en commun.
Et puis c'est des gens où le rapport, on ose plus facilement parler de sujets très dark. C'est très rare d'avoir des acteurs qui vont dire justement qu'ils sont passés par des épisodes dépressifs.
Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est pour les assurances en plus. Ils peuvent même pas dire. Mais parce qu'il y a, un humoriste avec qui j'ai dû couper une partie parce qu'on parlait de dépression chronique et en fait il m'a dit ouais mais après les assurances si ça, enfin si ça c'est dépression chronique ça peut être un motif de.
Il doit être très connu alors pourquoi.
J'ai pas dit le nom, mais
Oui, parce qu'il faut être à un niveau quand même d'avoir des tournages régulièrement pour.
Bon, c'est plus ou moins son cas. Donc, mais c'est un peu comme Robert Downey Jr. a eu du mal avant Iron Man pour de trouver du travail parce qu'il était connu comme un junkie, héroïne et tout ça. Et, il se réveillait dans le lit de ses voisins et tout. Enfin, l'histoire, c'est ça. Ouais, et en gros, du coup, il était un. Enfin, on pouvait pas l'engager parce que ça coûtait une blinde en assurance. Et parler de dépression moi, avec tout ce que j'ai dit sur moi-même, ça se trouve, je suis une liability pour une assurance. Tu vois,
t'as beaucoup pris des drogues ?
Non, mais en fait, il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit juste d'admettre deux, trois trucs et on fait « Ah, mon Dieu !» Je pense que les acteurs font pas ça. Tu sais, souvent, dans les acteurs d'Hollywood, ils disent jamais qu'ils prenaient de la coke, du crack ou de la meth. Ils disent toujours « Ah, c'était des cachets, c'était des trucs pour dormir et tout. » C'est pour masquer leur junkitude parce que sinon ils sont plus engageables après.
Mais c'est ce qui fait l'originalité du podcast de Dax Shepard, The Armchair Expert. Bah, alors pour le coup, lui c'est un acteur, il invite beaucoup d'acteurs, mais c'est très réussi.
Ouais.
Mais je pense que c'est du fait de sa personnalité et que c'est un alcoolique. Parce que tu sais, aux États-Unis, si tu as été alcoolique dans ta vie, tu l'es toute ta vie en fait.
Ouais.
Et juste donc tu dis le nombre de jours de sobriété. Et en fait, c'était quand même pas mal le thème du sujet de pourquoi il invitait des invités. Il en parlait beaucoup d'addiction et tout. Et là, pendant le Covid, en fait, il a eu un incident, je ne sais plus, il y a un an, en fait. Et donc, il a été hospitalisé et ils lui ont donné des médicaments. Et en fait, ça l'a fait chuter. Mmh. Alors que ça faisait, je crois, 30 ans qu'il était sobre. Et en fait, donc, il a fait une petite pause dans le podcast, puis il est revenu. Et d'abord, il en a parlé à... C'est le mec de Kristen Bell.
Je vois qui
c'est. D'abord, ils en ont parlé à leur fille.
Ouais.
Et ensuite, il en a parlé aux auditeurs. Mais tu vois, j'ai trouvé que c'était waouh, hyper inspirant, en fait. Tu vois, à quelques semaines comme ça. Alors peut-être qu'on peut y voir un argument marketing, etc., machin et tout. Mais en vrai, c'est quand même super courageux. Tu vois, parce qu'en plus, le fait de faillir, et justement, pour tous les gens qui. Et je trouvais ça génial, quoi. Et attends, mais il y a quand même dans son podcast, il y avait pas mal de gens qui venaient pour parler du fait qu'ils avaient pris des substances. Je me demande si. Ils étaient quand même assez honnêtes là-dessus, quoi.
Mais ils vont pas dire qu'ils sont en train d'en prendre.
C'est quelque chose de passé. C'est pas Robin Williams aussi qui était complètement camé?
Vraiment beaucoup de gens, tu sais.
Bah même mais Richard Pryor, le plus connu, est Richard Pryor. Benny Bruce. En fait, il y avait quand même une culture d'être complètement junkie, quoi.
Ouais. Non, moi je suis pas comme ça du tout. Hein. Je précisais quand même.
Ouais, bien sûr. Non, mais même ça s'est discipliné avec la génération d'après. Avec justement des Louis
C.K. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, Patrice O'Neill, Patrice O'Neill, c'est plus la bouffe, mais Greg Giraldo, et puis des gens moins connus aussi, il faut prendre soin de soi un petit peu. Quoi. Donc, on est une génération globalement un peu plus saine. Et moi qui viens de la musique où c'était des montagnes. Ouais. J'ai pas vu des montagnes de coke, mais c'était quand même des gens qui où ça tournait un petit peu, tu vois.
Oui.
J'en ai pas vu tant que ça dans le stand-up. Quand ça commence à marcher bien, des fois ils te proposent deux trois trucs, mais bon.
Ouais.
C'est jamais quelque chose dont je peux faire mon habitude parce que mon corps est assez faible en fait, donc je suis très vite genre cardiaque ou fatigué ou j'ai la nausée et tout, donc il y a une limite de toute façon à ce que je peux faire.
Ce côté camaraderie du stand-up est à la fois très excitant et à la fois hyper angoissant parce que personnellement j'ai aussi souvent peur d'être en dehors, de voir les choses se passer sous mes yeux et ça fait revivre, tu sais, mes angoisses de collégienne qui était la petite faillotte et qui n'était pas admise parmi les cools, tu vois.
Oui, j'ai un peu ça aussi. Ouais.
Toi aussi
Ouais, j'ai l'impression qu'à un moment, on m'a tourné le dos quand j'ai décidé de prendre un peu mon temps pour faire mon spectacle. Parce qu'il y a des gens, en gros, ils ont vu ça comme eux, ils le faisaient. Ils pensaient que ils entendaient ça comme t'es une merde, j'aime pas ce que tu fais, tu vois. Et je me sentais un peu isolé. Mais c'est aussi parce que c'est un business et tu veux pas faire travailler ce business et tu veux pas, tu vois. Donc tu te sens un peu exclu, quoi, ou normalement. Mais après, tu peux aussi en faire une force et te dire, c'est comme ça, tu vois. Enfin, tu peux aussi accepter. Un certain nombre de choses.
C'est
pas par hasard non plus, quoi, tu vois.
Non, c'est ça. Après, il faut accepter ensuite que tu trouves les gens avec qui tu t'entends bien et que tu peux pas être ami avec tout le monde. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont Voilà, y a des rapports. C'est vrai que, en fait, mine de rien, avoir un podcast, ça te met dans une position un peu de pouvoir, parce qu'ensuite les gens veulent passer dans ton podcast. Avoir un plateau, ça te met dans une
situation. Le tien, il marche bien, pas le mien. Mais...
si, le tien, il marche bien quand même.
Il y a deux épisodes qui marchent bien parce que c'est des gens qui sont déjà un peu connus. Quoi,
tu vois. Ouais, mais il est référencé dans les. Tu vois.
Ah, c'est cool. Bah, ouais. Je viens de le mettre sur un truc qui fait ça un peu mieux que le truc gratuit que j'avais avant, donc on va voir. En audio, hein, je veux dire.
Ah ouais, ouais. Non, quand je regarde les charts sur Apple Podcast et Spotify, il est toujours référencé dans les podcasts humour tendance, quoi.
Je regarde les chiffres, bon, je fais vraiment ça pour, en gros, les humoristes de France, quoi.
Oui, mais attention aux chiffres, quand même.
Parce que ça arrive d'être découragé, des fois.
Ça arrive d'être découragé, moi, ça m'arrive souvent. Je me dis, mais en fait, qui écoute, qui est là? Et il suffit d'un petit message, tu vois. J'en ai reçu un ce matin. Ouais. J'en ai reçu un ce matin d'un mec qui me dit, oh, en fait, ma coloc est fan des mecs que je veux ken, un copain avec qui j'avais pas parlé depuis longtemps. Et j'étais genre, ah oui, c'est vrai, c'est réel, ça existe, c'est là. Et tu vois, j'ai trouvé le courage de faire mon post où je dis, je lance le plateau et tout, parce que je me disais, bah en fait, si, ça fait plaisir, c'est pas toute seule moi dans ma tête qui...
Oups, ça fait quand même un certain temps qu'il marche plutôt bien ton podcast. Quand même,
oui, non oui, oui, non, c'est sûr, il marche bien. Après, ça reste, c'est pas non plus du level de... j'en sais rien, tu vois, quand je participe à un autre podcast en tant que chroniqueuse, qui est un podcast Spotify, et là, en effet, tu vois que c'est...
Ah bah, ils vont mettre partout, hein, si bah, c'est le leur.
Oui, ils sont dans les top chats. Et tant mieux, c'est très cool, je suis ravie. Après, je sais plus, la dernière fois, je discutais avec Louis Dubourg, le sien, qui a follow 7, il a accumulé en tout plus de 2 millions de téléchargements.
Oh, oui, non, ça a très bien marché.
C'était un super phénomène, quoi.
C'est une légende, il est dans le déni, là. Ah, ouais. J'essaie de lui expliquer. Bah, il a fait une def. Moi, tous les jours, on m'envoie, enfin, pas tous les jours, mais très régulièrement, on m'envoie. Excuse-moi, t'es dérangé, mais tu sais ce qui devient, Louis Dubourg?
Ouais, c'est étonnant.
Je dis, t'as fait une sorte de Dave Chappelle, en fait. Hein, tu disparais. Ouais, genre, il est où? Qu'est-ce qu'il fait?
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'est presque une bonne idée d'un point de vue marketing.
Presque une bonne idée. Bah, c'est respectable de suivre son. En effet, il y en a comme ça dans le stand-up. Il y a quelques mecs, entre guillemets, des puristes qui lancent un truc qui marche et puis qui l'arrêtent ou qui font les plateaux, les plateaux, puis ne font pas le spectacle.
Mais tu vois, dans ce que tu disais là, c'est faux. Je suis pas vraiment un puriste en mode. Parce que puriste, ça voudrait dire je juge tous les gens qui font pas comme moi. C'est aussi basé sur ce qui fonctionne pour moi, tu vois, et ce qui me fait plaisir et ce qui me met à l'aise. Mais puriste, ça voudrait vraiment dire, genre, tu sais, puriste, élitiste, enfin, tous les trucs en liste. Où je fais genre, non, faites ce que vous voulez, les gars. En plus, c'est un biz et on essaie tous de gagner du blé. Enfin, tu vois, si j'aurais largement fait mon spectacle plus tôt si j'avais eu un buzz, ce que j'ai essayé de faire, il n'y en a pas eu. Donc, j'ai fait, on va pas se prendre la tête. Mais j'aurais pris la thune de ouf. Si t'es Paul Mirabel et que tu fais pas de spectacle, t'es complètement con.
Bah oui, c'est sûr.
Parce que
c'est
ça va être rempli pendant 5 ans. Mais moi, j'ai jamais été dans cette position-là, malgré avoir un peu essayé quand même, hein, on se rend pas compte. j'ai quand même fait à peu près tout ce que je pouvais pour montrer ma gueule. Quoi.
Mais bon. c'est très violent ce phénomène, Paul Mirabel. Je l'adore, je lui veux tout le bien, je le trouve très fort. Mais c'est vrai que résultat, tout le monde a son nom à la bouche et que...
Bon, moi, j'ai son nom quand je parle de bise pour expliquer pourquoi
moi,
fait ça. Quoi,
on me dit, attends, quand est-ce que... Bah, alors, je réfléchis, est-ce que j'ai le droit de le dire? De plus en plus, en effet, c'est vrai que le podcast
faux nom.
J'ai fait un plateau, bref. Ouais. Et on m'a dit, ça serait bien que tu fasses un peu comme Paul Mirabel.
Ça veut dire quoi?
Mais exactement.
Même lui, il saurait pas te dire
non,
comment il
a fait. Non, mais parce qu'ils m'ont dit, il y aura un peu le public de Paul Mirabel, en gros des familles, en gros des jeunes, des ados. Donc, est-ce que tu peux ne pas être trop trash, tu vois?
Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, j'ai tellement envie de
me
sortir
pas,
ma
tête. Mais tu vois, c'est clair. En fait, t'as envie de dire, je vais faire quelque chose qui ressemble à mon spectacle.
Ouais, jamais écouter ces gens-là.
C'est fatigant.
Il faut que les gens comprennent que le stand-up, c'est pas... En fait, tous les divertissements ne sont pas faits pour toute la famille, pour tout le monde, pour les enfants et tout.
Oui,
on les a habitués à faire des comédies pour toute la famille parce qu'il faut que ça passe à la télé après pour que ça soit financé. Et du coup, ils ont l'impression que quand ils vont avoir un spectacle d'humour, si leur enfant de 11 ans, toutes les blagues sont pas faites pour lui, c'est nous qui avons tort. Non, il faut éduquer les gens. Enfin, tu vas pas amener ton fils voir, Die Hard.
C'est non, mais grave.
Fight Club. Il faut savoir. Et puis, parce que nous, ça nous oblige du coup à parler comme si on parlait à des enfants. Quoi. Moi, je parlais à des adultes.
Moi aussi, je parlais à des adultes, sinon je fais un spectacle de marionnettes.
Bah, c'est ça.
C'est clair. Et c'est qui les humoristes que tu préfères aux États-Unis qui t'ont donné rêvé à...
C'est comme la musique, ça devient tellement compliqué quand tu commences à creuser et que tu
commences
à kiffer tout le monde.
Ça.
Tu vois. Ouais. Non, mais à l'origine, du coup, on peut enlever la génération des Mark Norman et tout ça. À l'origine, donc en 2011-12, c'était vraiment la génération, c'est Louis C.K., Marc Maron, Patton Oswalt, Doug Stano, tous ces gens-là. Et ensuite, au fur et à mesure, j'adore John Mulaney, Nate Bargatze. En fait, j'aime aussi vraiment beaucoup de style. Et c'est vrai qu'il y a des... je peux à la fois kiffer un gars qui dit des trucs limite alors, super sexistes ou super de droite, juste parce que la vanne est bien et qu'il essaie pas vraiment de me convaincre que j'ai tort. Et dans l'autre sens, et pareil, différents sujets, des gens qui sont super clean, des gens qui disent pas de gros mots, des gens qui... où c'est genre immonde ce qu'ils racontent. En fait, c'est comme la musique, j'aime vraiment beaucoup de tout ce qui existe. Quoi,
oui, ensuite, il y a le savoir-faire, mais c'est vrai que John Mulaney, c'est vraiment très cool. Nate Bargatze, j'ai pas encore tout à fait accroché.
Bon, c'est des... En fait, j'essaie de vraiment... Comment dire? Ça m'intéresse de voir différentes manières de parler. Et c'est vrai que quand je kiffe la manière de parler, que je kiffe parfois c'est la simplicité qui me plaît, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est, je pourrais jamais écouter un type de stand-up tout le temps. C'est-à-dire que
non. Ouais,
si
ouais.
j'ai écouté un truc un peu clean, un peu, à un moment j'avais envie d'écouter un truc un peu vénère, tu vois.
Ouais, c'est
un peu pareil avec la musique aussi, tu vois.
Mais globalement, moi, c'est vrai que parfois j'aimais bien. Ah, j'ai toute une période où, quand j'ai découvert Ali Wong, où j'étais quand même fascinée par ce qui pouvait me choquer, c'est-à-dire le côté ouais. sexuel et le fait de dire un truc, de dire wow, je sais plus, c'était Ali Wong qui parlait de l'anulingus ou quoi.
Ouais.
Et je me dis, waouh, c'est bien de repousser les limites aussi du.
Bah, c'est quand tu découvres ça et que tu savais même pas qu'on pouvait dire ça sur scène, en fait.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est aussi, les gens disent, ah, c'est pour choquer. Bah ouais, c'est pour choquer le bourgeois, quoi. Enfin, tu vois aussi. C'est
moi, j'ai
aussi...
pas le muscle qui est choqué. Ouais. J'arrive pas à être offensé ou choqué.
Moi non plus,
pas
mais parfois, j'aime bien tressaillir en mode, oh, quelle la personne a osé, tu vois.
Quand ouais, ça me paraît genre, wow. trop
tranquille. Ouais, tu vois. J'aime bien ça, me dire...
Ça fait marrer, quoi.
Ouais, ouais, ça fait marrer. Et c'est vrai que tu te dis, bah, finalement, normalement, dans un mouvement comme celui à sa naissance, qui est le stand-up, enfin, c'est comme quand il y avait un moment, bah, Léo Ferré ou Yves Montand, ouais. ou, tu vois, ou Georges Brassens, enfin, tu vois, ils étaient super... super provocateurs dans leurs paroles et résultat aujourd'hui ah mais tu dis ça pour choquer et alors oui enfin en fait ça c'est en fait il y a aussi quelque chose d'artistique là-dedans
parce que mais le truc c'est que si on a l'air ouvert à ce genre de feedback on va te le donner.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tout le temps.
Non, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de plus lire. Là. Je suis dans un moment maintenant où tu sais, je lis plus, je m'assomme, je tombe, je suis KO, je dors. Enfin, j'ai plus.
Bah, si on parle de littérature, c'est quelque chose que j'ai jamais été vraiment été dans.
Ah ouais?
Ouais, dans ma culture, quoi. Mais donc, c'est joli énormément.
Tu kiffes Houellebecq, non?
Non.
Non,
pas
c'est
vraiment,
vrai
non, non, non. En fait, il y a un truc qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire du stand-up, c'est que j'ai vu trop de gens qui s'écoutaient écrire quasiment tous, en fait.
Ouais,
même les
vrai.
Trucs qu'on considère comme les classiques, des trucs il y a plusieurs siècles. Je fais, mais en fait, c'est boursouflé de style et ça dit un truc qu'aurait pu dire en une phrase. Et ça m'a beaucoup moins attiré le fluff littéraire,
ouais,
tu vois. Et à partir de là, la fiction m'a complètement.
Ah bah mon livre va te plaire parce que j'ai totalement enlevé ça. En fait, j'avais tellement peur qu'on croie que j'essayais de bien écrire que j'ai écrit un peu comme je parle.
C'est vrai, pour moi, c'est ça qui est cool, justement.
Je te pose les questions du questionnaire de Proust.
Ah, c'est le truc de Bernard Pivot, non, c'est ça
ouais, c'est Proust qui a créé ce.
Je suis pas spontanément drôle. Hein.
Non, c'est pas censé être drôle, t'inquiète. La qualité que tu préfères chez un homme.
Bah, en fait, je sais pas vraiment la différence entre
l'être humain.
Chez un humain, ça va être ringard, mais ouais, l'honnêteté, quoi. Mm-hmm, mais bon, tout le monde dit ça, non?
Pas du tout, non. Non, par contre, ce qui est très rigolo, c'est que c'est plus souvent les femmes qui se justifient de donner une mauvaise réponse que les hommes. Le principal trait de ton caractère.
C'est très compliqué, ça. Je sais pas ce qu'on veut dire, sympathique.
Ouais, c'est vrai.
Parce que si je dis introverti, je trouve que ça fait un peu psychologie magazine. Genre, t'es un peu introverti. Oui, parfois non. Tu vois. Mais, donc je dirais, ouais, c'est un gars sympa, quoi.
Ouais, tu vois. Carrément. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Bah, vraiment.
T'as pas d'amis.
C'est vraiment ce que t'appelles amis. Moi, j'aime bien. Je suis plus dans une phase où j'ai plein de potes autour de moi et j'ai pas vraiment de relation très forte avec eux, mais je suis content de les voir. Et ils sont pleins, ils sont limite dans le monde entier, tu vois. Je trouve ça trop cool. C'était quoi ce que
tu apprécies le plus chez tes amis
qui sont capables de se foutre de ma gueule sans et que ce soit drôle, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait il y a des gens en fait ils ont l'impression qu'ils t'ont vanné mais en fait ils t'ont juste insulté parce que il y a pas la punchline, donc c'est genre t'es moche et après tu le prends mal et ils font je croyais que t'avais de l'humour c'est un peu comme ça que je choisis mes amis, c'est quand ils font pas ça
c'est clair.
Ou quand c'est drôle, c'est à dire que si tu me détruis mais que c'est vraiment marrant, bah ouais je vais rire, hein, ça m'amuse, c'est du matériel de stand-up sur moi, c'est cool.
Ton principal défaut?
Je suis pas très fort pour les concessions, globalement.
Ah.
C'est ce qui peut rendre la vie un peu compliquée, des fois.
Ton occupation préférée?
En ce moment, je fais de la musique sur mon ordinateur 9 heures par jour et il n'y a que ça qui me rend heureux. Enfin, j'aime bien avoir des rires sur scène aussi, c'est sympa. Mais en ce moment, c'est ça que je fais, quoi.
Ton idée du bonheur?
L'absence de cancer. Non, au bout d'un moment, si t'as l'impression que le bonheur, c'est plus limite un truc de marketing et qu'en fait, c'est plus important la stabilité que le bonheur et le fait de, d'être relativement satisfait, mais pas assez pour rien faire. Le bonheur en soi, pour ce qu'on te vend comme le bonheur depuis qu'on est né, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Tu es plus censé rechercher une espèce de neutralité. C'est fois, on me demande comment ça va, je sais pas. Je sais pas poser la question aujourd'hui. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Et pour moi, c'est plus ça qu'il faut viser.
Voilà. Quel serait ton plus grand malheur ?
La perte de proches. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui m'angoisse plus, a priori. Parce que la perte de moi, on s'en fout, je serais pas là, tu vois. Mais, mais ouais, non, c'est plus ça qui m'angoisse.
Où aimerais-tu vivre ?
J'ai l'impression que ça change au fur et à mesure de l'âge et le. Par exemple, là en ce moment, j'ai pas envie d'habiter en Suisse, mais si je pouvais à 60 ans habiter à Genève, je serais très content, tu vois. Après, pareil, court terme, je suis très content d'habiter à Paris, mais long terme, si je fais du stand-up pendant les 20 prochaines années, je peux pas rester dans la même ville tout le temps, quoi. Il faut bouger. Donc, où est-ce que j'aimerais vivre ? À un moment, peut-être que je m'installerai, genre, voilà, c'est là, c'est cette ville. C'est... Mais pour l'instant, Paris, c'est plus genre une circonstance. Genre, j'ai pas vraiment les moyens de me barrer. C'est là que ça se passe. Il y a beaucoup de stand-up, je m'amuse bien. Mais j'aimerais beaucoup, tu sais, je fais les, tu m'as déjà vu jouer en anglais, c'est un truc que j'aimerais bien développer aussi parce que ça t'ouvre pas que aux États-Unis et au showbiz et à Hollywood, ça t'ouvre vraiment au reste de la planète, tu vois. Et c'est vraiment ouf parce qu'en faisant ça, je me suis rendu compte que putain, je faisais des plateaux. Alors toi, tu viens d'Argentine, toi, tu viens de Corée, toi, tu es sud-africain, le public, il y a des Indiens, y a... Enfin, pour moi, c'était vraiment cool ça. Je suis peut-être un immonde globaliste, mais, ça m'intéresse beaucoup plus ça que. Il y a beaucoup de gens, en fait, en France, ils oublient qu'on est sur une boule bleue qui flotte dans, qui flotte dans l'espace et ils pensent que. Ils se rendent pas compte que la France, c'est juste un endroit, un tout petit endroit qui est là, qui n'a pas une relevance culturelle énorme en ce moment en plus, et que c'est quand même bien de voir ce qui se passe ailleurs, quoi.
Grave. Ce que tu détestes par-dessus tout ?
Les gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Mais ce que je déteste, c'est surtout qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Tu vois ? Et qu'il faut affiner ton flair au fur et à mesure que tu vieillis, tu vois. Et en plus, ces gens-là profitent. Du coup, c'est jamais moi qui vont essayer de baiser maintenant. Ça va toujours des gamins, quoi. C'est ça que je déteste le plus. C'est exploiter la vulnérabilité des autres. Et voilà.
Comment aimerais-tu mourir ?
Je sais pas si c'est possible, tu sais, l'idée de mourir dans son sommeil.
Ah ouais.
Est-ce que vraiment ça fait pas mal ? Parce que moi, j'ai pas du tout peur de la mort en soi, de plus exister, mais là, c'est le truc, le moment avant en fait, qui me fait flipper. Donc, idéalement, vite et sans douleur. Mais bon, ça, c'est, on rêve tous de ça, quoi, tu vois. Tu dors dans ton sommeil. Si c'est possible de mourir dans son sommeil sans se rendre compte qu'on est en train de mourir, idéal. Je pense que c'est ça l'idéal. Ouais.
Ok. Et enfin, ton état d'esprit actuel ?
Le Covid, ça m'a un peu baisé. Donc, j'ai l'impression de repartir un peu à 0,2 dans la vie, en fait. Voilà. Genre tout, financièrement, sentimentalement, mentalement, tout. Donc, c'est là où j'en suis, là. Tu vois,
merci.
Ah, tu m'as demandé, là.
Ouais, c'est génial. Non, mais c'est vrai, tu veux développer ? T'as eu une histoire d'amour qui s'est mal passée pendant le Covid ?
Non, j'en ai eu plusieurs avant tout ça.
Qui se sont arrêtés à cause du Covid ?
Non, pas du tout. Non, c'est plus une série d'expériences très peu satisfaisantes qui m'ont plongé dans une sorte de dépression, genre... qui a duré genre les 3 années avant le Covid. Okay. Et ensuite, j'ai réglé un peu ce problème, mais il y a eu le Covid. Et ça a complètement niqué mes économies aussi. Je suis déjà pas... socialement, c'est toujours un peu compliqué pour moi de regarder les gens dans les yeux et tout, mais le fait d'avoir été 8 mois dans un 15 mètres carrés sans parler à personne, c'était... je suis encore en train de réapprendre à être une personne en société, tu vois. Et les gens, ils sont vexés parce qu'ils me disent bonjour et c'était pas assez dans mon champ de vision, donc je les ai ignorés. Après, ils font « tu m'as mis un vent ». En fait, je sais plus du tout comment gérer ces trucs-là. Limite, je m'énerve ou non. Tu peux avoir un peu d'empathie pour ce qu'on a tous vécu, en fait, parce que apparemment, j'ai l'impression d'être le seul à pas faire semblant que c'était cool. Même si il y avait des aspects positifs, si tu veux. Ça a un peu recadré beaucoup de choses et j'essaie de. Du coup, tu as l'impression de repartir à zéro avec des nouvelles données, des nouveaux trucs que tu as été obligé d'accepter. L'idée, c'est de pas plonger dans un truc trop négatif, tu vois. C'est pas forcément évident. Donc, c'est aussi ma responsabilité de pas. Tu sais, c'est comme quand tu joues au bowling, des fois, à un moment, la boule, elle tombe dans la rigole et c'est mort, quoi. Tu peux pas la sortir. Et c'est un peu le risque que j'ai des fois avec mon mental. Et il n'y a pas un énorme soutien sur ces gens. Les gens aiment bien dire sur les réseaux sociaux, ouais, la santé mentale et tout. En fait, dans la vraie vie, les gens, ils te fuient un peu quand ça va pas. Donc, j'essaye de, en gros, de tenir la corde et faire non, vas-y, on monte là, ça va être cool. Et je prends des vitamines. J'essaie de... Parce que des fois, tu vois, des pensées négatives, je déteste la positivité toxique. Ouais. Dès que tu dis un truc négatif, on dit « mais dis pas ça sur toi !» Peut-être que c'est vrai, hein, tu sais. Il y a des trucs que je sais pas faire, et je dois dire, je suis nul en batterie, par exemple. Je suis pas mauvais à la basse, je suis assez médiocre à la guitare. Et les gens disent « non, faut dire que tout est génial et que t'es super tout le temps. » Voilà. Mais tu peux aussi tomber à un moment dans un truc où c'est trop ça, quoi. Où c'est trop, je suis une grosse merde, et c'est normal que je sois tout seul parce que je mérite que ça. Et bon, bah, le but, c'est pas tomber dans ça, quoi. C'est vraiment plus simple quand t'as mon âge, en fait. Ouais. A priori, c'est plus simple quand t'as mon âge et que t'as pas en plus derrière les responsabilités de j'ai fait des enfants, mais je suis divorcé, donc faut que je paye la pension alimentaire, j'ai aucun de ces problèmes-là. Donc c'est vrai qu'en tant que j'ai quand même une certaine liberté, tu vois, qui me permet de passer un peu le temps à restructurer tout ça avec les informations que j'ai en tant qu'adulte, tu vois, parce que j'ai quand même 36 ans cette année. Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est des problèmes où. Quand j'avais 18, enfin, c'est des problèmes que je réglais avant avec l'autodestruction, en fait, tu vois.
Ouais.
Et au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a d'autres solutions. Et faire de la musique 9 heures par jour, c'était un peu ça aussi l'idée, tu vois. Puis de toute façon, au bout d'un moment, tu comprends que c'est ta propre responsabilité de ne pas te suicider. Et du coup, que globalement, personne ne va vraiment t'aider. Que limite, il y a des gens qui vont presque sans faire exprès essayer de t'y pousser un peu, tu vois. Et une fois que tu comprends ça, tu fais c'est mon truc, quoi. C'est moi qui gère et c'est moi qui suis à la barre.
Ouais.
Et voilà, mais non, je repars de zéro, de tout, quoi.
Mais ça va être génial parce que t'es tellement, tellement drôle, Adrien. Merci d'être venu.
Merci à toi de m'avoir invité, c'était cool.
Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Adrien Arnaud ? Est-ce que la partie sur la dépression vous a touché, la sincérité d'Adrien, sa sensibilité, la vitesse de nos échanges, nos cerveaux étaient sacrément synchronisés, non ? Dites-le-moi sur Apple Podcasts. D'ailleurs, je remercie pour leurs avis adorables Nihimata, Lucie Delomez, Aurore de Pyongkong et Issam pour sa gentille critique du plateau des mecs que je ken sur Beer Educ. Prochaine édition lundi 15 novembre à 20h, toujours à la nouvelle scène. Je remercie encore le partenaire de cet épisode, Nidé.co. Testez-moi cette crème pour les boobs, elle est vraiment très cool. Code promo ROSA10, lien en description. Deux petits disclaimers. Je dis dans cet épisode qu'il faut être discret quand t'animes un plateau. Bon, moi je sais pas si j'ai été particulièrement discrète au mien. Après, en ma défense, la longue chauffe, c'était pour qu'il y ait une bête d'ambiance. Et mon passage, en effet, était court, plus court que les autres. J'avais décidé de faire moins de 10 minutes pour laisser 12-15 à mes invités. Voilà. Et concernant les captats télé, dont je me suis beaucoup plaint avec Adrien pendant l'épisode, je dirais en note positive que je suis OK avec celle du Teva Comedy Show qui est sur ma chaîne YouTube, OK avec celle du Tarmac qui est sur leur chaîne YouTube, et normalement, très 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 plus que OK avec celle de Pasquinade, d'Haroun. Ça s'est vraiment très bien passé, le tournage. Donc j'espère, elle devrait sortir en janvier 2022, je crois, et j'ai hâte de voir le résultat et hâte de la partager. Voilà. Que vous dire d'autre ? Je voulais vous raconter un truc, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai raconté dans le podcast Hotline, un peu à l'improviste, en fait. C'était l'épisode avec Marion Seclin, en fait. C'était un épisode où on parlait un peu de MeToo, du milieu du cinéma, de ce qu'on voulait montrer ou pas à l'image, de la représentation. On parlait de la représentation du sexe dans les films, au cinéma, dans les séries. Et puis... je me suis souvenue d'un truc auquel j'avais évidemment pensé au moment de l'écriture de mon livre, parce que vous verrez que j'ai pas mal parlé de mon parcours de comédienne, que j'ai lié à mon parcours de femme, à mon parcours de femme amoureuse. Et je me suis souvenue dans l'épisode d'Hotline de quelque chose qui m'est arrivé, que je n'ai pas raconté dans mon livre, j'ai raconté d'autres choses. C'est pas quelque chose de très grave, c'est quelque chose que j'ai re-raconté un peu depuis dans un interview... pour le podcast d'Alexis Le Rossignol avec Blonde ou je sais pas quoi. Et je me dis que c'est bien que je le dise dans Les mecs que je veux ken. Si vous êtes là en fin d'épisode, voilà. En fait, quand j'avais quoi ? 25 ans ? À peu près. Je sortais de... J'avais joué au théâtre de l'Odéon. J'avais été mise en scène par Peter Stein. Avant, j'avais bossé avec John Malkovich. Enfin, j'avais une chouette carrière au théâtre à ce moment-là. Mais j'écrivais aussi et je voulais réaliser un court-métrage. Enfin non, à vrai dire, je savais pas encore que je voulais réaliser, mais j'avais envie d'écrire, j'avais envie de m'écrire un rôle. J'avais envie d'écrire quelque chose. En fait, j'étais très influencée par la série Girls de Lena Dunham et de la représentation du corps et la façon dont elle-même se mettait en scène son corps.
Et donc, j'avais écrit l'idée d'un court-métrage que j'avais appelé La Piscine. Je ne savais pas encore si c'était moi ou pas qui allait jouer dedans, mais je parlais de la difficulté de sortir de chez soi pour aller à la piscine. Voilà. Et c'était censé être une tragicomédie. C'est, vous pouvez le voir, le lien, si vous voulez, je le mettrai dans la description. Le film est sur Vimeo. Donc j'avais un peu écrit ça, j'avais écrit des bribes d'idées, mais je ne me sentais pas légitime d'aller au bout de ce projet, parce que je me disais, pour réaliser un court-métrage, il faut avoir fait la FEMIS. Moi, je n'ai pas fait la FEMIS. À l'époque, quelques années auparavant, j'avais travaillé en Angleterre. J'étais partie vivre à Londres. Et à Londres, j'avais travaillé avec un dialogue coach, un mec, pour améliorer mon accent. Je bossais la journée dans une boutique et le soir, je prenais des cours avec ce mec pour me dire que j'allais avoir un accent anglais extraordinaire. Et quelques mois plus tard, je pars en vacances l'été en Italie et j'écris à ce dialogue coach. Voilà, je lui souhaite de bonnes vacances et je lui dis que moi aussi, je lui raconte que je pars en Italie. Et il me dit, ah bah, si tu es en Italie, tu peux faire ce stage. C'est un stage avec des Anglais et des Américains autour de l'écriture. Ça te permettra peut-être de développer ton projet, La Piscine. Et il se trouve que c'était vraiment pas très cher par rapport à la renommée des intervenants. Donc je me dis, bah écoute, allons-y. Et donc, après mon voyage à Sienne, avec un ami de l'époque, je m'étais inscrite pour ce stage. J'essaie de pas faire trop longue l'histoire, parce que peut-être que finalement, j'en sais rien, je la raconterai. Peut-être que je la raconterai dans le tome 2 des mecs que je veux ken, peut-être qu'elle me reviendra, peut-être qu'il faudra lui donner plus d'espace à cette histoire. Pendant ce stage, j'ai développé mon projet de court-métrage et j'ai trouvé la confiance grâce à des mentors anglais, américains, australiens, des écrivains, des scénaristes qui m'ont donné énormément confiance en moi et voilà, m'ont enlevé cette idée de la tête de la FEMIS en me disant « fais-le ». Écris-le, va jusqu'au bout de l'histoire. Et puis, je suis restée amie avec certaines d'entre elles, Joanna Murray Smith, Olivia Hatred. Et elle m'avait donné plein de très bons conseils sur les endroits de poésie à trouver, les plans qui servent à rien. C'est marrant parce qu'on avait un coach, James V. Hart, qui était super, mais qui parlait beaucoup de cohérence, de continuité, de narration. Et Olivia et Joanna étaient plus sur les incidents, ce qui se passe et qui sert pas forcément à la narration, mais qui apporte au film. Bref, c'était passionnant, j'étais passionnée, j'étais la plus jeune, la plupart étaient plus âgées, avaient au moins la trentaine, voire la quarantaine, voire la cinquantaine. Et j'étais tombée amoureuse pendant cette semaine-là d'un jeune homme qui, lui, il s'était passé quelque chose finalement le dernier soir, mais c'est pas ça ce que je veux vous raconter. Ce que je veux vous raconter, c'est qu'en fait, pendant ce stage, il y avait un réalisateur américain. Et rétrospectivement, je comprends qu'il me tournait un peu autour. Mais c'était une ambiance générale. Il faut que vous vous imaginiez que c'était en Italie, dans un cadre assez somptueux. Tout le monde buvait beaucoup de prosecco, tournait autour de la piscine. C'était très chaleureux. Et c'est vrai qu'il me tournait un peu autour, mais j'étais jeune et j'étais peut-être moins consciente qu'aujourd'hui Aujourd'hui, je vois à des kilomètres les intentions d'un gars. J'arrive beaucoup mieux à lire. Là, c'était flou, quoi. C'était un peu flou. Et en fait, ce réalisateur avait fait des films assez connus, hein. Il était assez renommé et il sortait d'un divorce. Donc il était là, mais il n'était pas coach, il n'était pas là, il était là. Il n'était même pas intervenant en fait, il était là parce qu'il connaissait des gens et qu'il se remettait d'un divorce très pénible. Et il était ami avec tout le monde et il allait mal, il était un peu en dépression. Et tout le monde, c'était très à l'américaine, les gens bourrés faisaient un speech au début de chaque dîner en parlant de choses très intimes. Et un truc qu'on aurait du mal à imaginer en France, mais qui, moi, m'exaltait, en fait. Et vous devez l'imaginer. En plus, j'ai aussi une fascination pour les États-Unis. D'épisode en épisode, j'en parle tout le temps. Il se trouve que ce réalisateur m'avait proposé, pendant le stage, à la toute fin, de me dire « Si tu veux, je réaliserai ton court-métrage ». Et moi, j'étais là, bah oui, ah bon, mais... Enfin, je venais à peine d'aboutir, de finir l'idée de ce petit court-métrage sur une nana qui veut aller à la piscine, mais va pas à la piscine. Et je me disais, pas, ce réalisateur hollywoodien va pas réaliser mon court-métrage, c'est absurde. Mais il m'avait dit, si, on reste en contact. Et puis, en effet, je m'étais dit, ça se trouve, c'est des paroles en l'air, voilà, c'est du bullshit. Et non, à la rentrée, on commence à se faire des séances, voilà, on échange des mails, on se fait des séances Skype. Et il me dit qu'il veut réaliser mon court-métrage. Et je lui demande pourquoi, parce que je ne comprends pas. Et il me dit non, que ça lui fait plaisir de revenir à des projets plus indépendants, des projets européens, que lui veut quitter Los Angeles, qu'il veut s'installer à Londres, et qu'il aimerait faire des choses à Paris, et que pour lui, ça lui permet d'avoir un pied là-bas. Et voilà, d'être dans un nouveau moment de sa carrière. Donc bon, il me persuade que ça a un intérêt pour lui aussi. Ok, je lui dis bon, bah... J'en parle un peu autour de moi, d'ailleurs. J'en parle à mon père et à mon agent, qui trouvent ça un petit peu bizarre, parce qu'ils me disent, un réalisateur américain, t'auras pas les... Si c'est pas un projet français, t'auras pas de subvention en France. Enfin, ça va être compliqué pour un court-métrage. Donc j'avais un petit scepticisme. Mais bon, mon père est jamais très encourageant à la base. Donc bon, je continuais les discussions. Et en fait, le réalisateur américain, de séance Skype en séance Skype, j'avais l'impression qu'il partait un peu dans des délires. Il voulait, pareil, un chef-op, qui est un chef-op de gars qui avait fait des films d'action. Alors que moi, je me disais, non, le but, c'est de faire simple, léger, qu'on tourne ça vite, sans sous. Parce que c'est une comédie et que je m'étais dit, il n'y aura pas de subvention vu que lui est américain, donc il faut faire ça de façon légère, quoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on travaillait sur le scénario, qui pourtant était plus ou moins terminé, abouti, il revenait avec des idées un peu délirantes il faudrait qu'en fait, on te voit, qu'il y ait l'image de ton rêve, de ton fantasme, quand tu es dans la piscine et qu'on te voit nager. Enfin, des trucs qui auraient coûté très cher et puis qui correspondait pas du tout à ce que j'avais écrit. Donc bon, je doutais, je me disais, mais je le sens pas. Et en même temps, je me disais, est-ce que je suis pourri gâtée? Est-ce que je suis une princesse? J'ai quand même la chance d'avoir quelqu'un comme ça qui s'intéresse à moi. Ça n'arrive pas souvent, pour une fois que je suis choisie, que quelqu'un... Pourquoi j'irais pas? Mais j'étais... en conflit. Et puis surtout, il y avait autre chose, c'est que quand il se connectait sur Skype, il était torse nu. Et je me disais, bon, bah, il fait chaud aux États-Unis, voilà. J'avais pas capté que c'était un peu chelou. Et puis parfois, il me faisait des compliments sur mon apparence, sur ma photogénie, mais jamais au point que ce soit... fou, quoi. C'était juste... Alors, il parlait un peu du rapport du réalisateur à l'actrice, mais ça restait normal. Et puis, de temps en temps, il avait une petite bonne idée, par-ci une petite bonne idée comique, où je me disais, ah si, en fait, c'est intéressant. Et bon, au final, je retourne en Angleterre. Je sais plus pourquoi. Je me demande si c'était pas le tournage du film de Frears, je sais plus où. Bref, je me retrouve à aller à Londres et à dormir chez des amis que j'avais rencontrés au stage, qui m'hébergent et chez qui je passe quelques jours. Et un matin, je suis réveillée par le réalisateur qui rentre dans ma chambre et me caresse le pied. Ouais, c'était quoi, 3-4 ans avant MeToo. Je sais pas comment vous dire que il y avait vraiment pas les mots. Il y avait juste un sentiment bizarre, mais il y avait pas vraiment les mots. Enfin, je me suis réveillée d'un coup, puis je l'ai regardé. Je savais qu'il était là, qu'on devrait se croiser, mais c'était pas prévu qu'il entre dans ma chambre, qu'il me touche le pied. C'était pas prévu. Et puis en plus, je dormais. Enfin, je sais pas. Il était rentré dans mon intimité. Alors peut-être qu'il était un peu tard. Ça se trouve, il était 10-11 heures, mais. Mais j'étais en robe de nuit ou en pyjama. Enfin, souvent, moi, je dors dans des positions, je sais pas, je me mets sur le côté. Enfin, il avait violé mon intimité, quoi. Donc, je me suis poussée en arrière et je l'ai regardé bizarrement. Puis, il a eu un petit rire et il est sorti de la pièce. Et je me suis dit, oula ! Mais pas de mots, juste un sentiment bizarre, quoi. Et puis ensuite, on avait rendez-vous, en effet, l'après-midi, mais on avait fixé un vrai rendez-vous pour parler justement du film. Et, Et on se retrouve, et là, il commence à délirer, en fait. À notre rendez-vous, il commence à parler du fait que pour qu'un film fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un transfert, que le réalisateur soit amoureux de son actrice et l'actrice amoureuse de son réalisateur. Ça va vous paraître totalement cliché, cucu, mais c'est le discours qui me tenait et c'était pas pro. Et là, j'ai eu... Là, je me suis dit, bon, c'est mal barré, cette histoire. Et ça m'a mis du temps quand même à comprendre ça, mais j'ai appelé voilà, mon ami avec qui j'étais partie l'été, qui était mon ex-petit copain et qui était devenu mon meilleur ami. Et je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose que je sens pas avec ce réalisateur. Je lui ai raconté, puis il m'a dit, écoute, c'est un tocard, là, c'est un tocard, ce mec. Arrête, laisse tomber, c'est pas possible. Arrête. Et donc, j'avais dit OK. Et en fait, j'étais en colère. Et je me souviens que le soir, il y avait un dîner donc dans cette famille avec lui et les gens qui me recevaient. Tout le monde buvait un peu. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui montait un peu en moi, un peu méchant, s'il me disait quelque chose ou un compliment. Il essayait de me taquiner et je le rabrouais. Puis tout le monde me disait, oh, Rosa, dis donc. Et puis, à un moment, je suis allée aux toilettes. Et je m'en suis pas rendu compte, il a monté les escaliers, il m'a suivi, puis il a essayé de rentrer aux toilettes avec moi, quoi. Et j'ai fermé la porte, j'ai réussi à m'enfermer dans les toilettes, il a pas pu entrer. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est fini. J'étais en colère, j'étais triste, je me suis dit, ah, putain, c'était au mois de décembre, donc je me suis dit, septembre, octobre. Novembre, 3 mois à m'être fait prendre pour une conne, en fait. Me sentais conne. J'avais jamais donné aucun signal à ce mec qui, au fait, je ne l'ai pas précisé, mais avait plus de la cinquantaine. Il avait plus de la cinquantaine, c'était pas un beau mec, c'était un mec assez petit de taille. Enfin, moi, je suis pas attirée par les mecs plus petits que moi. Je suis attirée, évidemment, par les anglo-saxons. J'ai eu... Je sais plus si c'est avant ou après, je crois que c'est après, mais j'ai eu une histoire après avec un réalisateur américain, mais enfin, ça n'avait rien à voir. Là, en tout cas, c'était pas le cas, c'était pas quelqu'un du tout que je désirais. Et puis, quelques jours après, je sais plus si c'est le lendemain ou quoi, je lui ai écrit pour lui dire que c'était fini, quoi. Que ça s'arrêtait là. Je sais plus comment j'ai réussi à trouver les mots pour lui dire que ça s'arrêtait. Quelque chose d'assez froid, que je voulais plus entendre parler de lui. J'arrive pas à savoir qui m'a aidée, à qui j'en ai parlé. Je sais même pas à qui je l'ai raconté, ce truc. Bah, je crois cet ami, hein. C'est lui qui m'a... Puis j'ai oublié, quoi. Mais ça m'a donné une rage. Ça m'a donné la rage de réaliser ce film moi-même. Et de réunir les sous. Et c'était trop tard pour les subventions, mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je trouve l'argent. Il fallait que ça se fasse vite. Et donc j'ai fait un crowdfunding et j'ai harcelé tout le monde autour de moi. Voilà, vous voyez, quand je vous harcèle pour venir voir mon spectacle, bah, j'ai harcelé tout le monde pour, en parlant de procrastination et de piscine, en envoyant mes notes d'intention, et j'ai réussi à récolter 10 000 balles. Et j'ai tourné mon court-métrage, et j'ai joué dedans, et j'ai réuni une super équipe, et j'avais un super chef-op, un super premier assistant, deux gars qui avaient beaucoup d'expérience, de douceur, de gentillesse, qui m'ont énormément accompagnée. Je suis tombée amoureuse de mon équipe, mais dans le bon sens, enfin, pas avec aucune ambiguïté sexuelle, juste c'est vrai que le tournage s'est hyper bien passé, c'était un vrai souvenir et j'ai adoré l'expérience de réalisation. Et puis en fait, j'ai enfoui cette histoire avec ce gars parce qu'il y en a eu tellement, à vrai dire, de mecs relous, de réalisateurs chelous, de gens dans le milieu qui sont... Il y en a eu plein, quoi, en fait... Il y en a eu plein d'histoires comme ça. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une parmi... je veux dire, c'est... Et en fait, j'ai de la chance. Il n'est pas rentré dans les toilettes avec moi ce soir-là. Et on pourrait dire... et c'est ce que... Voilà, qu'il était un peu ivre. Le lendemain, les amis... Limite, les gens chez qui j'étais m'ont dit un peu que quand même, j'étais dure, qu'il fallait que je sois compréhensive parce que c'était un homme en plein divorce. De toute façon, le monde allait au secours de ces hommes-là. Hein. Et en fait, j'ai pas réussi à mettre deux mots. Et c'est pour ça que peut-être parfois vous me trouvez un peu insistante sur les questions du féminisme dans cet épisode avec Adrien ou de manière générale, mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, MeToo a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai trouvé les mots, en fait. agresseur, harcèlement, dérapage, intrusion, violer l'intimité, et même au-delà de la zone grise, juste abus en fait, abus de confiance, abus d'autorité. Tout d'un coup, il y a eu plein de mots. Et c'est vrai que récemment, j'avais la discussion avec quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, qui disait du mal d'Adèle Haenel, qui disait ouais, elle est partie des Césars parce qu'elle était dégoûtée de pas avoir eu le César de la meilleure actrice. Et ça me paraissait tellement cruel de dire ça. Elle est partie parce qu'elle supportait pas, en fait, qu'elle avait pas envie d'être dans cette salle qui remet le prix à Polanski après qu'il y ait une 12e accusation dans ces circonstances, dans ce moment, au moment où il y a MeToo. Et en plus, le courage qu'elle a eu, Adèle Haenel, de raconter à Mediapart ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'un réalisateur, quand elle était adolescente, soulève son t-shirt et lui caresse les seins, c'est hyper courageux parce que tout le monde dira oh bah c'est rien, ah bah c'est il y a tellement plus grave, et puis il y a toujours plus grave, et il y a toujours des gens qui ont moins de chance, il y a toujours des gens qui viennent de milieux moins privilégiés, mais en fait elle a quand même osé parler de quelque chose qui justement en fait qui est bien sûr évidemment moins grave que le viol, mais qui traumatise en fait et qui fait perdre confiance et qui je sais pas quelle conclusion j'ai à donner là-dessus en fait. Je sais pas en quoi tout ça a compliqué mon rapport aux hommes, mais ça l'a compliqué, bien sûr. Ça l'a compliqué d'être actrice et hétéro et attirée par des hommes parfois de pouvoir et puis parfois pas du tout attirée et puis parfois eux sentant leur volonté d'imposer quelque chose. Ça, le fait de me sentir proie comme ça, ça bien sûr que ça a vraiment ça m'a dégoûtée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis tellement soulagée de faire du stand-up parce que j'ai aussi associé ça au métier d'actrice quoi, et que même si il y a du sexisme sur les line-up, il y a moins de nanas qui sont pour tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pourra reprocher au milieu du stand-up, mon Dieu, enfin c'est rien par rapport à ce qu'on subit en tant qu'actrice, c'est rien. Enfin, c'est de la discrimination, on n'est pas programmé, on nous dit « parle pas de ci, parle pas de ça, habille-toi comme ci, habille-toi comme ça ». Voilà, il y a plein d'injonctions, plus ou moins ringardes, il y a plein de... Mais, enfin, il n'y a pas... en tout cas, non, il n'y a pas cet environnement. Et parfois, je crois que ce que je me disais, c'est que toutes les femmes vivent ça. Et en fait, non, aussi. Je rencontre des amis, justement mes amis d'Hotline, voilà, qui sont plus ou moins journalistes, chroniqueuses. Parfois, au détour d'une conversation, je balance un truc comme ça, hop, il m'est arrivé ça, un relou. Et elles me font prendre conscience que non, ça en fait beaucoup des relous, en fait. Ça en fait beaucoup des situations comme ça que j'ai vécues. Et en fait, c'est propre au métier d'actrice. Et là, ça sort, vous voyez, il y a des articles du Monde sur le MeToo Théâtre. Et bien sûr, il y a des gens qui vont dire, et alors, les femmes de ménage, et alors, bien sûr, et dans le milieu des avocats, vous croyez pas que... Bien sûr, mais je vous jure qu'en en discutant avec mes amis en tant que comédienne, j'ai quand même, il y a un pourcentage, au point qu'on les oublie, enfin, au point qu'il faut s'en souvenir de ces... Et j'ai pas de conclusion. Je vous laisse partager ça dans mon podcast parce que je vous fais confiance, parce que c'est à moi, voilà, c'est mon podcast, c'est ma parole, c'est moi qui décide. Je sais pas si c'était le meilleur épisode pour le faire, mais comme voilà, j'ai trouvé qu'on avait fini l'épisode sur une teinte très sincère et plus sensible et plus personnelle, je me suis dit que voilà, c'était peut-être le moment de vous confier ça. J'en tire non plus aucune fierté. C'est pas, j'ai pas encore tous les mots et c'est rien de grave. Rien de grave, il n'y a rien de grave, et les gens changent, et les gens évoluent, et peut-être que si je lui parlais à cet homme, si je lui disais, voilà, ça j'ai pas supporté, ça se trouve, il se confondrait en excuses, et il serait trop mal, et il se rendrait compte que je suis pas la seule personne à qui il a fait ça, et il écrirait à plein d'autres filles, et si jamais il me demandait pardon, j'aurais aucune raison de pas lui pardonner, parce que ça se trouve, lui non plus, peut-être avant MeToo, ne se rendait pas compte que son comportement était toxique et s'inscrivait dans des habitudes. Enfin voilà, c'est complexe, c'est des sujets complexes, mais merci de m'avoir écouté, je vous embrasse.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.